Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Kevin et Elisabeth pour le making of des deux derniers films, 7.1, 7.2. C'est déjà notre dernier!
Ben ouais!
On a fait le 1-2, le 3-4, le 5-6. Bon, si jamais il y a des gens que c'est leur premier épisode à écouter, là, on vous recommande d'aller écouter les autres. Puis, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on parle du making-of des films? C'est qu'on a tous lu le même livre, là, je le rappelle, Page to Screen, qui est un énorme livre qui détaille pas tout, mais certains moments de la production de chaque film. Donc là, on a lu la section sur le 7.1, 7.2. Ils ont comme tout mélangé ensemble, vraiment juste... parce que ça a été tout tourné en même temps, on va le dire tout à l'heure. Mais bref, c'est ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous résumer. Une partie plus courte que les autres, hein,
ouais.
Qui misait aussi beaucoup sur le fait que c'était la fin, ce que chaque acteur ressentait là, de terminer.
L'émotivité par rapport à ça.
Ouais. Fait que c'est comme, quand même ce qui va être dominant aujourd'hui, je dirais, dans notre conversation et notre résumé de ça. Donc, on va pouvoir se permettre un peu plus, je pense, de donner notre opinion sur ces deux films-là. Et ce que je voulais faire d'abord pour parler de ces films-là, c'est faire mention de l'événement tragique qui a eu lieu au début de la production du 7.1. Bien là, je dis production du 7.1, mais je viens de dire que les deux ils ont été filmés en même temps. Là, mais bref, sont en genre de... pas en pré-prod, là, mais les acteurs, ils n'ont même pas commencé à tourner. Fait que, tu sais, c'est de...
Sont en répétition, en
ouais,
fait.
Ouais, figurer comment les scènes vont être faites, puis surtout les stunts, là, les cascades, parce qu'il y en a beaucoup, puis dans le fond, presque tous les acteurs qui ont des scènes de cascade ont des stuntmen, qu'on appelle, fait que des cascadeurs qui sont là pour eux, pour faire ces cascades-là pour eux. Puis Daniel Radcliffe, lui, son cascadeur s'appelait David Holmes, et... malheureusement, il y a eu un accident pendant qu'il répétait ou qu'il essayait de voir, figurer comment ça allait se passer, la cascade, le stunt dans la scène où Bathilda, Tour de Sacre, redevient Nagini. Et que là, ben là, moi, je l'avance tout le temps, ce bout-là. Fait que là, je suis comme, apparemment, Harry revole dans le mur, puis whatever.
Il se fait ramasser.
Fait que ce stunt-là, ben c'est pas Daniel Radcliffe qui le fait. Normalement, c'est un stuntman. Et bref, David Holmes qui se blesse gravement, qui se casse le cou, en fait. Oui. Pendant la répétition, parce qu'ils ont mal figuré. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a un documentaire sur HBO qui raconte vraiment son histoire tragique. Je l'ai regardé récemment. Kevin, tu l'as vu? Elisabeth, tu l'as vu le documentaire?
Non, je ne l'ai pas vu encore, mais j'avais entendu parler de l'histoire.
C'est sur Crave, c'est dans la section Wizarding World, là, sur Crave. Là.
C'est vraiment, vraiment intéressant.
C'est très bon, c'est produit par Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe avait une très belle relation avec David. Il n'est pas mort, là. Il est devenu paraplégique. Ce n'est pas un spoiler, là. Mais dans le fond, c'est vraiment son histoire.
Comme toi maintenant.
Oui, il y a un podcast sur le métier de cascadeur, de stunt. Alors, c'est ça, je voulais quand même qu'on le mentionne parce que le livre n'en parle pas. Puis je trouve que c'est important à dire.
C'est un peu manquant dans le livre, je trouve ça plate. Je comprends un peu le pourquoi ils ne l'ont pas mis, là, mais tu sais, ça a été un moment important. C'était comme un des meilleurs amis de Daniel Radcliffe. Fait que de voir ça, c'est poche de se ramasser quadraplégique en chaise roulante, à la fin, en plus, là, c'est le dernier film, là, il a fait toutes les stunts imaginables depuis 10 ans, puis le dernier film, il se casse le cou, il ne peut plus rien faire, sa vie est hypothéquée.
Mais j'ai trouvé ça inspirant quand même, dans le sens que ce gars-là, il accepte, mettons, his fate, un peu
total,
son destin là-dedans, puis il garde vraiment une bonne attitude face à
tout
ça.
Une résilience, là. Bravo, parce que je me vois pas dans cette résilience-là, moi, si ça m'arrive. Là.
Ouais. Mais c'est un métier qu'on sait qui est très dangereux, là, sauf qu'en même temps, j'ai l'impression que même si on le sait, on espère que ça ne nous arrivera pas. Ben là, je dis nous, mais je parle des cascadeurs, là, pas moi particulièrement.
Tu sais, il y a des mesures de sécurité qui sont prises, évidemment, pour pas qu'il y ait de risque de mort, là, disons. Mais je veux dire, tu sais, des fois, il y a du feu, des fois, il faut que tu sautes de très haut. Exact. Il y a toujours des risques.
Il accepte ça, mais tu sais, on fait tout en sorte pour que ça arrive pas. Mais c'est des accidents.
Exact.
C'est ça.
Alors, bref, le documentaire s'appelle The Boy Who Lived sur HBO. Merci.
À écouter.
Oui, à écouter. Alors, 7.1, 7.2, Harry Potter et les reliques de la mort. Je vous rappelle que le livre est sorti en 2007. Donc là, le livre sort. Là, les producteurs sont comme, OK, ils lisent. Puis là, ils sont genre, fuck. Comment on va faire pour fitter tout ce beau livre-là qui contient, ma foi, des éléments cruciaux du début à la fin? sais, comme tu peux quasiment rien skipper, ben, même si c'est ça qu'ils ont fait au final. Mais dans le fond, comment on peut faire tout rentrer ça dans un 2h30, 3h? C'est quasiment impossible. Puis il y avait considéré un deux parties pour la coupe de feu. Fait que c'était comme, tu sais, c'était déjà une option à considérer là, de faire un deux parties pour le set. Puis là, ils ont même considéré un trois parties. Hey, ça aurait-tu été le fun, trois parties?
Je pense que ça aurait été plus complet.
Ben oui.
Mais
tout aurait été là en trois parties, je
c'est
pense.
C'est sûr que ce qu'il mentionnait, c'est que il disait que les gens allaient dire que Warner Brothers essayait comme d'étirer la sauce, là, de faire plus d'argent. Puis je comprends ce point de vue-là parce que niveau marketing, ça l'aurait peut-être pas été super, là.
Ben, tu sais, faire de l'argent, ça coûte cher faire un film. Puis,
il y a ça aussi, oui.
On le voit dans ce film-là, la production, là, c'est 281 jours de tournage, une fois de même. C'est énorme, là, 281 jours de tournage. Là. Ouais. J'écoute, j'en fais 90 sur une série, puis je suis comme mort, raide à la fin, puis on fait pas des stunts comme ça. Là.
Mm.
Fait que c'est 18 mois de tournage. Là.
Ouais, c'est 18 mois. Ouais, 18 mois de tournage, février 2009 à juin 2010. Je suis allée voir sur Wikipedia. Puis c'est ça. Fait que tu sais, David Heyman, le producteur, je vous rappelle, lui, était comme pas sûr des deux parties. Steve Knowles, le scénariste, lui, qui était comme, on pourrait même faire en trois parties. Fait que là, finalement, bon, ce fut deux parties. Puis la première chose importante à décider quand tu prends la décision, justement, de faire un film basé sur un livre en deux parties, c'est où que ça va couper entre les deux parties.
Ouais. Exact.
Très important, cette décision-là. Puis apparemment, ben, ils ont changé quelques fois d'idée par rapport à ça. Initialement, évidemment, c'était de couper autour d'où que ça coupe actuellement, là, donc suite à... Ben, tu sais, autour du mal noir, des malfois, mort de Dobby. Puis, au début, ils voulaient plus finir sur un cliffhanger, donc ça aurait été le moment où, justement, ils se font capturer dans la forêt par les rafleurs.
Ouais.
Puis que Hermione défigure Harry, puis là, ils amènent au manoir. Fait que, mettons, ça aurait fini là, on aurait fait « Ah non, fuck, ils se sont fait pogner! » Puis là, on va voir la suite dans je sais pas, c'était quoi? C'était, ouais, comme un 6-8 mois.
C'est quand ils font deux parties, souvent, ils vont sortir les films à un intervalle un peu moins long,
ouais,
là, parce qu'ils sont
c'est pas en un même an, temps, là,
donc, puis ils veulent garder le monde, fait que, ouais. Mais ça aurait été bien quand même. Moi, j'aurais aimé ça à ce moment-là. Ça aurait fait une belle finalité. Ceci dit, la meilleure affaire qu'ils ont faite, c'était au moment où Voldemort prend la baguette de Sureau. Je trouve que c'était juste parfait.
Ben c'est ça,
moi
parce
aussi,
que
je trouve que c'est une bonne fin.
Oui, parce que finalement, ben c'est ça. Ils ont décidé de finir avec la mort de Dobby et d'ajouter le petit cliffhanger de Voldemort.
C'est ça.
Avec le survol du lac là, vers l'île où Dumbledore est enterré, la tombe qui s'ouvre, Voldemort qui prend la baguette.
J'aime le point là, où est-ce qu'il disait qu'il voulait pas finir encore un autre film avec la mort. Parce que là, tu sais, le 4,
Cédric.
3, le 4 5, 6, on finit avec
Dumbledore.
La mort.
Ouais, c'est ça.
Là, après ça, tu sais, finir encore... Tu sais, ça devient un peu répétitif. Fait que là, d'apporter
ça... Ça finit quand même pas mal avec la mort de Dobby. Parce
ben, c'est ça. Ben, c'est parce que
au
c'est
truc
pour ça
des coquillages, puis après ça, c'est Voldemort qui prend la baguette.
De,
là,
mais... Ils ont décidé de le faire pareil. Ben, encore la mort.
Oui, mais oui, je suis d'accord. Mais en même temps, tu sais, la scène supplémentaire avec Voldemort nous laisse un peu sur notre fin versus la mort de Dobby, qu'on aurait été triste, point, tu sais.
Dans le sens qu'il y a pas... Mais ça finit mal, le film. Dans le sens que tu regardes le film, t'es comme, hey, tout va pas bien. Dobby est mort, puis là, l'autre...
Il y a la baguette qui va vaincre Harry avec... puis ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à le thing avec Dobby, ben dans le fond, tu sais, s'il avait bougé la mort de Dobby, tu sais, le 7.2 aurait commencé avec Dobby qui meurt.
C'est ça, ça aurait été moins...
Fait qu'il voulait tout garder la partie Dobby dans le 7.1.
Ouais.
Puis tu sais, Dobby, pour ceux qui ont écouté attentivement les analyses de films versus livres, Dobby est très présent dans les livres, dans le 4, dans le 5, là, dans le 6, je suis rendu à lire ça, là, mais il est là, alors que dans les films, on l'a pas vu depuis La Chambre des Secrets. Fait qu'ils l'ont ramené dans le 7.1. Ils ne pouvaient pas skipper sa mort, ils ne pouvaient pas le mettre dans le film, mais ils ont eu besoin de l'intégrer un peu plus dans certaines scènes que dans le livre. Dans le sens que quand tu lis le 7e livre, tu es comme, ben oui, Dobby est encore là un peu. Mais là, dans le 7e film, vu que ça fait longtemps qu'on l'a vu, ils ont dû comme l'ajouter dans au Square Grimoire quand Créature revient avec Mondingus, ben Dobby est là. Mais c'est pas de même dans le livre, tu sais. Mais c'était juste de nous permettre, nous donner assez le temps.
On
se rattache à lui pour être triste quand il meurt.
Exact.
Mais c'est parce que je pense qu'il voulait pas que sa mort soit banale. T'sais, il voulait vraiment qu'on soit affecté par la mort de Dobby. Puis avec raison. Là, t'sais,
ils ont bien réussi parce que c'est une des morts qui m'affecte le plus dans la.
Ah ouais.
Ah, moi, ça me tire les larmes.
Ben, moi aussi, j'ai tellement de peine. Je trouve tellement. Il est tellement. comme fidèle à Harry, là. Mm. Puis on dirait que cette fidélité-là, puis ces liens d'amitié-là qui se sont créés, comme, je sais pas, moi, ça vient vraiment me chercher, tu sais, que... Tu sais, quand il dit il meurt dans les bras de son
collatéral, Harry. C'est juste collatéral, finalement, pas nécessaire qu'il meure, pauvre petit, là. Puis là, il meurt.
Bien, je sais. Ouais, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Puis il y a la scène de son enterrement, là, où ils vont comme creuser sa tombe. Puis David Yates, le réalisateur, qui dit qu'il a vraiment filmé cette scène-là un peu de manière inhabituelle, sans vraiment les diriger, puis juste comme creuser exact. Une tombe. Parce que c'est
ça
comme
bien, moi, qu'il
très humain de faire ça.
Je me suis pas rendu compte de ça. Mais c'est une caméra qui bouge un peu plus, il y a moins de c'est moins statique.
C'est moins calculé un peu,
plus
là.
Du cinéma vérité qu'il appelle, là. Okay. Puis, fait que c'est... OK, faites ça, l'action se passe là, arrangez-vous, la caméra est là, puis elle va vous suivre.
Exact.
Je trouve ça bien.
Ouais. Mais il y a plein de choses, là, il y a plein d'explications qui ont été données pour des éléments qui me frustrent depuis très longtemps sur ces deux films-là. Mais là, je suis comme un peu plus dans l'acceptation.
Qu'est-ce qui te frustre?
Ben, écoute, m'a dit ça
Dieu,
dans la prochaine heure. Hein?
J'ai hâte.
Mais je suis sûre que toi aussi, quand je vais le dire, tu vas être genre, ben oui, mais ben moi aussi, ça m'a... Bon, bref. Puis c'est ça. Fait que là, on s'entend que moi, je trouve que la séparation entre les deux parties... Voyons. La séparation entre les deux parties, je suis là. Quelle les mains. La séparation est bonne.
Oui.
Bon choix. Bonne décision. Le petit cliffhanger, comme on disait, de Voldemort. Parfait. Go.
C'est réussi.
Moi, je suis d'accord avec ça, en tout cas, cette finalité-là.
Ce qui fait qu'on a deux films. Ouais. Puis ça, c'est l'affaire que tout le monde peut s'entendre parce qu'en même temps, c'était voulu. Deux films avec des ambiances puis des sensations complètement différentes. Fait que t'as une première partie qui est plus tranquille, filmée différemment même. Un
road
peu plus
movie,
là, irritée,
là,
comme road movie. On est dans le naturel, on est dans
le monde des moldus.
Dans le vrai plus. Monde, laissé Poudlard derrière, on est plus au naturel.
Le trio aussi est très vulnérable.
Oui.
C'est la première fois qu'ils ne sont pas protégés par Poudlard ou des adultes, là. Mm-hmm. Tu sais, qui sont comme laissés à eux-mêmes dans la nature puis que personne ne sait vraiment où ils sont, là.
Ouais.
Donc, c'est sûr que ça apporte cette vulnérabilité-là aussi. Tu sais, je veux dire, Hermione, mettons, qui doit lancer les sorts de protection autour de la tente pour se protéger. Tu sais, il faut qu'elle. Je veux dire, évidemment, Hermione y aurait pensé, mais il faut quand même qu'elle pense de protéger les autres parce que sinon...
Il faut qu'ils se fient à leurs propres compétences qu'ils ont acquises dans les 6 dernières années, ce qui est peu, là. Puis on va le dire, une chance qu'Hermione était là.
Absolument.
Ça, c'est vraiment... De toute la série, c'est là, vraiment, qu'on se dit une chance qu'elle est là, vraiment. Là. Puis le build-up est tranquille tout au long du film. Comme on ne sait pas où qu'on s'en va. Tu sais, mettons que quelqu'un n'a pas lu le livre puis voit ça la première fois, tu ne sais pas où tu s'en vas. Si c'est angoissant, ils vont-tu réussir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va finir? Moi, je l'aime beaucoup, le 7.1 pour ça. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la lenteur un peu de ce film-là.
Mais c'est voulu, mais c'est terne, c'est... Ils savent pas ce qu'ils font. Puis c'est long avant qu'ils réussissent à trouver comment, défaire le premier Horcrux. Fait qu'on passe beaucoup de chapitres à juste qu'est-ce qu'ils font avec cet Horcrux-là, comment qu'ils vont le défaire, comment qu'ils vont le détruire. Puis là, Ron qui devient un peu bête, tout ça. Puis c'est vraiment, tu lis ça, puis t'es comme, c'est pas joyeux, là. Puis c'est exactement ce qui se passe. C'est pas joyeux. Le monde est en train de virer à l'envers, là. Puis ils sont tout seuls, puis ils peuvent pas aller voir leur famille. Ceux qui en ont. Puis,
tu ne comprends pas, tu n'as pas de famille.
Exact.
Tes parents sont morts.
C'est chien.
Oui, c'est mais aussi, tu sais, tu disais que tu comprends ceux qui n'aiment pas, mettons, le 7.1 puis tout ça.
Non, je ne les comprends pas. C'est juste dans le sens que c'est très répandu comme opinion.
C'est d'autres choses.
Mais moi, personnellement, c'était pas dans mes préférés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le dernier épisode qu'on a fait ensemble, je ne l'avais pas encore lu. Là, je l'ai lu.
Le 7?
Oui.
Ah, déjà?
Oui.
Tu as été vite.
Fait que là, je comprends. La lenteur. Mais moi aussi, la lenteur me dérangeait de la première partie. La deuxième partie, je l'aime beaucoup.
Ben c'est ça, parce que justement, là, ce que je disais, les deux ambiances différentes, c'est que là, le 7.2 commence, puis OK, le début est très slow, là, quand il va interroger Ollivander, puis Cripsec, un 10 minutes.
Ça smoothe un peu.
Ouais. Là, après Gringotts, puis là, ça part. Dès qu'ils sont sur le dragon, le let's go, Poudlard, puis ça s'enchaîne rapidement, puis on a un film crime d'action, puis c'était voulu, ça aussi, là, selon eux, le build-up de tous les films, justement, qui menaient à ça, la bataille finale, alors que dans le film, dans le livre, c'est une bataille, mais évidemment un peu moins grandiose comme elle est dans le film. Hein, tu n'as pas de visuel là, quand tu lis le livre, là, puis c'est ça. Fait qu'on est dans la bataille, les explosions, les sortilèges, le drame, les points culminants.
Les animaux qui sont là, les araignées, les gros géants, tout ça, parce que c'est
ça,
visuellement, c'est incroyable.
Mais je trouve ça intense.
La musique aussi est bonne. J'ai oui. beaucoup aimé la musique dans le dans cette point-là, la bataille de Poudlard, là, le, puis quand McGonagall a fait sortir Pierre Totum Locomotor, j'ai des frissons tous les fois. Je trouve que c'est bien amené, je trouve ça super intéressant, c'est vraiment malade.
Là. Quand le trio se promène, puis ils s'en vont vers, juste avant la mort de Rogue, quand ils se promènent comme dans la cour extérieure, puis ouais, tout tombe, puis les géants, les araignées, cette toune-là, c'est malade.
C'est ça, ouais. C'est tellement bon. J'ai comme l'impression qu'on va le mettre.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Cue music.
Cue music.
Alors, le 7.1. Là, comme on a dit, le 7.1 puis le 7.2 ont été vraiment tournés en même temps, mais là, on va y aller dans notre discussion en commençant par le 7.1, puis on va après passer au 7.2. Daniel Radcliffe, très émotif lors de son dernier tournage avec les Dursley.
Oui.
Puis
qu'on n'a pas vu beaucoup, nous autres.
Ben, nous, on ne le voit pas beaucoup dans le film.
Non.
Puis, bon, vous le savez, pour ceux qui ont écouté mon épisode sur les seins supprimés, mais t'as un bon 5-2 minutes ouais, de supprimé de ce bout-là, là, vraiment. Son échange avec Dudley, son échange avec Pétinia, pas vraiment d'échange avec Vernon, là, mais
on
bref, il y a quelques minutes de départ des Dursley. Puis, c'est ça, Daniel Radcliffe, full émotif, mais c'est normal, tu sais, à chaque film, il y avait son petit, ben, à part dans le 4, il y avait son petit moment avec eux, puis dans le 6.
Ouais.
C'est vrai, hein, les Dursley sont pas là dans le 4, puis sont pas là dans le 6.
Qui est dommage parce que c'était leur moment dans le 4, là, en plus.
Ben oui, avec, c'est dans le livre, là, ouais, avec Arthur qui vient chercher Harry dans ses malades.
Mais on va le voir dans la série. OK.
Oui, true, true. Puis, ben, aviez-vous quelque chose à dire là-dessus? Tu sais, c'est ça, là. C'est les dernières scènes avec beaucoup d'acteurs, ben, avec qui ils ont joué dans, depuis des années.
C'est la première fois qu'ils disent, là, clap de fin pour, les acteurs, Richard Griffiths, Harry Melling, tout ça. Fiona Shaw.
Oui, Fiona Shaw.
Fait que, tu sais, t'sais, tu l'as à chaque film, c'est comme c'est le dernier plan de telle personne, fine, en qui on se revoit l'année prochaine pour le prochain film. Mais il n'y en aura pas. Fait que c'est un adieu. Là.
Mm.
Puis en plus, quelques années plus tard, l'oncle Vernon, l'acteur, il est mort. Fait que, c'est ça, c'est la fin. C'est voilà, on a commencé, vous aviez 10 ans, vous en avez 21, c'est fini. Bye bye.
Ce qui arrive aussi avec des jeunes acteurs comme ça, c'est que c'est le premier adieu d'un plateau de tournage. Tu sais, dans le sens que, mettons, les acteurs que ça fait plus longtemps qu'ils actent, tu sais, sont habitués à ça, même si ça leur fait toujours un moment d'émotion, c'est normal. Mais tu sais, je pense que pour eux, tu sais, ça a été une figure, tu sais, ils ont grandi avec ces gens-là. Puis là, du jour au lendemain, ils les côtoieront plus du tout, là, tu sais. C'est comme, peut-être qu'ils vont les voir à l'occasion, mais tu sais...
Mais c'est surtout que... Daniel Radcliffe aussi, il a porté la série sur ses épaules au complet. Mm-hmm. Fait que il est comme un peu, il se sent un peu responsable de tout, puis il a connecté tout le monde.
Ouais.
C'est la pierre angulaire de tout ça. Fait que,
je l'aime tellement. Genre, le documentaire, là, ça m'a fait plus aimer
c'est
Daniel Radcliffe
homme,
encore.
Ouais.
Je l'aime.
C'est une belle
il
personne.
Il est vraiment, ouais, c'est ça. C'est comme Rupert Grint.
Mais il est très aussi, tu sais, dans le...
Name dropping.
Comme Rupert, là, que je connais maintenant.
Ah oui.
Son grand chum,
c'est ça.
Ouais. Qu'est-ce que t'allais
dire? Ce que j'allais dire, c'est que Daniel, il est très sensible aux autres, dans le sens qu'il prend vraiment le temps avec les gens de connecter avec eux, de discuter. Tu sais, dans le livre, on voit, mettons, un peu plus loin, là, dans les au revoir, là, tu sais, il parle même de la crew derrière la caméra, là, tu sais, il parle pas juste des acteurs. Puis c'est ça que je trouve beau, c'est sa disponibilité envers les autres, même si justement la série repose sur ses épaules, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de travail, tu sais, de mémorisation, de scènes à apprendre, puis tout ça, mais il prend quand même le temps de connecter avec les gens, puis je trouve ça beau.
Sa reconnaissance envers l'apport de chaque équipe, là, vraiment, puis
oui.
de reconnaître, c'est ça que... C'est... En tout cas, oui.
Mais comme il le dit, c'est une famille pour eux autres, là.
Ouais.
Ouais. Ensuite, on a, pas très longtemps après le départ des Dursley, la scène des sept Potter, donc quand tout le monde prend du polynectar pour se transformer en Harry.
Hey, ça, là.
J'ai adoré, moi, ma lecture sur ça.
Oh oui, mais...
Ça a été la scène la plus compliquée à tourner parce que ce qui est compliqué, c'est justement la métamorphose de chaque personne en Harry. Tu sais, quand on les voit rapetisser, le visage qui change. Compliqué à faire ça, là. Mm-hmm. Ils doivent comme se baser sur le visage de l'acteur, ouais, mettons... Qui se transforme en Harry, Fleur, Mondingus.
On voit Hermione quand même, on reconnaît un peu Hermione qui change.
Hermione, c'est vrai.
Même Ron, on le voit, là. Ouais. Ils sont pas tous beaux, là. Mais c'est long, là. Puis Harry, il doit jouer. il doit jouer lui 8 fois lui-même, tu sais, là, fait que c'est ça doit être, c'est long là.
Fait que c'était très compliqué, c'est ça, la métamorphose, puis après juste très long de faire, comme tu viens de dire, Daniel Radcliffe qui doit être lui, mais
sous dans un le fond autre il personnage. Doit jouer lui-même, mais par un autre personnage. Fait que ouais, dans le fond, il prend Hermione, c'est les mimiques d'Hermione, il doit les reproduire en lui-même. Comme si Hermione jouait Harry, mais dans le fond, c'est lui qui joue lui-même.
Exact.
Fait que c'est quand même Hermione, intense, ça, là.
Fleur, Mondingus, puis tout. Fait que ça fait que Daniel a dû filmer plusieurs séquences. Puis après, ils ont comme... Avec la caméra qui restait comme, mettons, à la même place. Fait que là, il fait... Parce que dans le plan, là, on se rappelle dans le film, ils sont tous là, l'un à côté de l'autre, en train de se changer puis mettre tout le même outfit pour ressembler à Harry. Mais pendant ce temps-là, ils agissent tous comme leur vraie personne. Hermione, mettons. Donc, c'était de la caméra restait fixe, filmer chaque... Ben, jouer chaque personnage, puis après, superposer chacune de ces takes-là pour qu'au final, t'as les 7 Harry qui sont là, puis qui agissent différemment l'un de l'autre. C'est là, mais...
tellement compliqué. Là.
Ça n'a pas été coupé, ça. Hein? C'était filmé d'une traite là, pendant qu'ils se déplaçaient, je pense.
Au moment où ils se changent, puis t'as Mondingus... Non, pas Mondingus, Folleuil qui se promène dans tout le monde, puis qui regarde...
Hey, compliqué.
J'ose même pas imaginer là, le travail de je les vois en meeting faire OK, comment qu'on fait ça là, puis je suis découragé là, parce que ils ont pris une semaine pour tourner ça là, c'est clair. C'est l'enfer.
Ils parlaient de 95 takes.
Ah, c'est
bon. T'sais, pour c'est une scène, ben c'est
énorme.
Ça commence à être long là, 95.
C'est Stanley Kubrick qui fait ça là, après ça il y a plus grand monde qui font 95 takes là.
C'est fou.
Mais c'est parce que tu dois faire le ménage dans tout ça après, tu dois monter tout ça, comme tu dis. Puis pour l'acteur aussi, c'est épuisant, là. Tu sais, de refaire. Ouais. Tu sais, mettons, on recommence. C'était pas correct. Tu sais, à un moment donné, t'es épuisé, là, quand même. Fait que c'est quelque chose.
Puis je trouve que, quand même, tu sais, justement, dans cette scène-là, on voit que Daniel Radcliffe, ben, he can act. Il peut jouer, là.
Oui.
Tu sais, parce qu'on l'a souvent critiqué, OK, c'est pas le meilleur pour l'émotion, puis pour brailler, puis pour crier de douleur, ouais, whatever, là. Mais, ouais. C'est, il s'améliore de film en film, évidemment, là.
Ouais, après qu'il pleure la mort de Dumbledore, mettons, là. Après ça, ça
ouais, c'est mieux. Vrai, t'avais dit que c'était.
Mais je l'aime pareil. Mais,
oui. Mais tu sais, c'est
raté. Puis, en effet, moi, le bout que je trouve le plus drôle, c'est. Quand il acte, moi, je pense que c'est Fleur.
Oui, Bill, ne me regarde pas, je suis hideuse.
Exact. Puis Hermione qui dit, mon Dieu, t'as vu, il est vraiment dégueulasse. Là,
mais c'est beaucoup de travail aussi qu'il a dû faire, lui, en dehors de la caméra, parce qu'il doit observer les autres, parce que chaque personne dans la vie de tous les jours a des mimiques spécifiques que, mettons, un autre ne fait pas nécessairement. Puis là, tu dois reproduire ça, là, tu sais. Si, mettons, la personne se passe tout le temps même dans les cheveux, ben là, tu sais, il faut que tu penses à faire ça.
Ouais.
C'est quand même, ça demande une observation beaucoup des personnages.
Oui, puis on va y venir pour les autres scènes de Polynectar qui est dans le film. Un film avec beaucoup de Polynectar.
Puis encore, ils en ont coupé parce que dans les livres, il y en a beaucoup plus, mais oui, il y en a beaucoup de Polynectar.
Oui. Petite mention que la scène après, ben, que justement Harry est dans la moto volante avec Hagrid. Ils ont juste vraiment roulé. Tu sais, il y avait une vraie... Ils l'ont construit pour vrai, là, ce véhicule-là, qui ont fait rouler vraiment sur comme un 3 mètres maximum là, pour après utiliser cette séquence-là de roulage
parce que le reste du temps, c'est David Bay.
Ils n'ont pas été faire vraiment des petites roulettes, comment je peux dire, là, des dans les tunnels.
Peut-être en parler de ça un petit peu, là.
Oui, vas-y. Bon, la scène que Hagrid déplace Harry safely jusqu'au terrier.
Safely, on va se dire, entre guillemets, là.
Pourquoi?
C'est pas même dans le livre.
Ils sont dans les airs, là. Ils sont pas en train de se promener à travers les chars.
Non, ben c'est ça, moi aussi.
Ça va, le monde des moldus, là.
Tu sais, puis là, ils roulent ses côtés du tunnel. Ouais, c'est ça. C'est comme...
Le respect du décret de non des voies. T'es raté, là.
Oui, absolument. Ben c'est vrai pareil, parce que c'est comme la fin du monde dans le 2 quand Ron et Harry volent la voiture volante.
Oui.
Puis que là, 2-3 moldus les ont vus. Mais là, ils roulent dans le tunnel comme des dangers publics. Puis clairement, tu sais, tu te dis, c'est pas du monde normal, là. Fait que là, ça, c'est pas grave, là, tu sais.
Ouais. J'ai plissé des yeux quand j'ai vu ça.
Ben oui, ben c'est comme au début du 5, là, quand ils volent toutes là, à côté du bateau, là, en s'en allant au QG, là, t'es genre, mais dans le livre, ils sont dans les airs.
Exact. Mais oui, fait que tout le long, ben ça a été le stunt de Robbie Coltrane, là, qu'on n'allait pas mettre sur une moto pendant 22 heures de temps, là, pauvre lui. Fait que, puis l'effet de grosseur aussi, je l'accroche tout le temps. l'effet de grandeur et tout ça, ça prenait le stun. Fait que, ouais, ils n'ont pas roulé longtemps. Deux, trois secondes. Après ça, c'était, ouais, OK, bye-bye. Merci, Roby. C'est ton 400 000 piastres.
Vraiment. Après, on va avoir besoin de toi pour lever le chapiteau, puis c'est tout. On ne le revoit pas dans le 7.1 à Green, non?
Mais on voit pas grand monde, je trouve, dans le 7.1. Là.
Pas du tout.
À part le
c'est
trio.
Même Rogue, là, je pense, je me demandais. Ah, c'est comme Rogue dans le 7.1, on le voit au début quand on il va au manoir des Malfoy, puis on le revoit pas.
Mm. Non. Triste.
La scène chez Hermione a été écrite pour le film. Dans le livre, évidemment, ça arrive.
C'est juste qu'elle, expliqué. Mais
elle c'est raconte, elle dit, j'ai enlevé la mémoire à mes parents, sont rentrés en Australie. Mais ça a été écrit pour le film. Vraiment, on la voit chez elle, on la voit dans sa chambre, on la voit retirer la mémoire de ses parents. Puis Emma Watson qui trouve que c'était une très bonne décision parce que ça montre vraiment encore plus clairement comment Hermione et Ron font des sacrifices pour Harry pour l'accompagner dans sa quête des Horcruxes. Que les gens sont amenés à être attachés encore plus à Hermione de cette façon-là.
Ouais.
Puis, quand Emma Watson est arrivée dans la chambre qu'elle avait préparée pour Hermione, elle a dit qu'elle trouvait ça un peu trop...
girly.
Un petit peu trop girly, puis que c'était pas vraiment à l'image d'Hermione. Fait qu'elle a recommandé d'ajouter plus de livres.
Elle a dit,
où sont les livres, là, tu sais. Puis, ça aussi, ça démontre... Ben, tu sais, évidemment qu'elle connaît son personnage après 7 films, là. Ouais. Sauf que... Tu sais, qu'elle se permette de faire comme, hey, ça marche pas du tout. Puis les gens qui ont fait les décors, je me dis, ils ont-tu écouté les films? Ils ont-tu lu les scénarios?
Ben oui, ben c'est
ils
ça.
Ils étaient où, là, ces gens-là?
Tu
sais, clairement, Hermione, là, il y a des livres partout, là. C'est sûr, puis c'est très bien rangé, je suis sûre, là. Tu sais, je pense pas que c'est comme. Tu sais, elle prend son gros livre, là, comme lecture légère, là. Je crois pas qu'elle doit avoir des cochonneries qui traînent, là. Tu sais, elle doit juste avoir des livres, d'après moi, là.
Ouais. Mais tu vois, j'essaie de repenser au...
Elle n'a pas de Polly Pocket là, dans sa chambre.
Non, c'est ça. Je pense pas non
mais
plus.
Mais tu sais, je les ai pas remarqués, les livres qui ont été ajoutés tant que ça.
Ben moi, bah,
je vais porter attention la prochaine fois.
J'essaie de me rappeler sa chambre, je m'en rappelle plus.
Ben c'est très simple, c'est comme un lit avec un mur, puis une lampe, puis une table de chevet.
Mais quand est-ce qu'elle passe là? Je veux dire, elle a fait le charme sur ses parents, après
ben,
ça,
t'as pas vu t'as pas vu le TikTok, là? C'est genre, t'entends sa mère qui dit genre... Hermione, c'est prêt, whatever, puis elle dit « Coming, Mom! »
Ah, oui,
puis on dirait qu'elle chante en disant « Coming, Mom! »
Ouais, c'est vrai, OK, ouais, là, je
genre, je descends, maman.
Non, là, moi, ça m'en
là, elle est dans sa chambre à ce moment-là, puis elle descend, puis il regarde
la télé. « Tea is ready. »
Oui, « Tea is ready », c'est ça.
« Move to tea » tout le temps.
Oui.
Bref. Ah. Puis le mariage de Fleur et Bill, petite mention, là, ils ont construit vraiment le gros chapiteau.
Ouais.
Énorme. Qui doivent élever
à la française.
À la française, le look du mariage, parce qu'ils se sont dit, le mariage de Bill et Fleur, ça doit être la famille de Fleur qui paye pour ça.
Oui, hein, tellement en 1950 encore.
Mais chez Bill, je veux dire, il travaille à Gringos, là, il y a un salaire, là, il y a peut-être de l'argent de côté, là. Comme
ouais,
ils ont
mais de là à faire un gros mariage comme ça, alors qu'il vient d'une famille pauvre, je suis pas sûre.
Non, non
c'est clair que c'est les parents de Fleur qui payent, mais...
Mais qui paye pour quoi, là? C'était pas une grosse affaire non plus. Un chapiteau, puis il y avait comme...
Il y avait
des tables.
Mais dans l'histoire, dans le livre, il y avait comme un band, il y avait.
OK, c'était comme la grosse affaire.
Il y avait du monde, là. Puis des fois, je me pose la question sur les gens qui étaient là aussi. Là. Je suis comme.
Mais
pourquoi
c'est parce
le
que.
Le meilleur ami de Dumbledore était là.
Oui, pourquoi Elphias Dodge est là?
OK, il est invité. Ah, oh, nice.
Mais dans les traditions aussi que les parents payaient les mariages, c'est que tout était payé. Tu sais, aujourd'hui, si tu es invité à un mariage, souvent, dépendamment des mariages, soit tu offres un cadeau, soit tu payes ton repas, mettons.
Ouais.
Mais dans l'époque où est-ce que les parents payaient, mettons, la totalité du mariage, s'il y avait 200 invités, ils payaient la bouffe de 200 invités.
Ouais, c'est
là.
Vrai que ça coûte cher. Fait ça, que,
à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Puis c'est rarement... de la pizza, là, le repas. Là.
En tout cas, tout ça pour dire que je remarque pas tant le look français. Il va falloir encore une fois que
non
je fasse plus attention.
J'ai fait « Ah, OK, mais... »
Même l'élégance, ils ont mentionné que c'était justement un look français et élégant, mais tu sais, dans un chapiteau, je sais pas
ben,
où elle est.
À l'intérieur, c'est beau, mais tu sais...
Ouais, mais tu sais, de là...
À quel point c'est français, je...
Ben, c'est ça. Bref, justement, en parlant de Bill, ben, on a des nouveaux acteurs dans le film qui jouent pas de nouveaux personnages, hein, des personnages qui sont là...
qui sont mentionnés, mais qu'on voit...
Qui sont dans les livres, qu'on a déjà rencontrés, mais bref, première fois dans les films, dont Bill, qui est joué par Domhnall Gleeson,
le fils de l'autre.
Le fils de Maugrey dans la vraie vie. Puis en plus, c'est lui qui dit « Maugrey est mort ».
Lui qui annonce l'annonce de
c'est Maugrey. Lui qui annonce la mort de Maugrey, c'est pas le même dans le livre. Mais tu sais, je me dis, oh, ils ont tout décidé de dire « ouais ». Je sais pas.
Rendre ça émotif.
Ben ouais. Puis lui, il voulait vraiment faire les films d'Harry Potter, cet acteur-là. Il avait auditionné pour être Stan Rockade dans le 3, il l'avait pas eu. Puis après, il s'était dit, ben j'aimerais ça être Bill ou Charlie. T'sais, il savait que les frères de Ron existaient dans les livres, ouais. qui n'avaient pas été castés. Puis là, il pensait peut-être que Bill allait justement arriver dans le sixième film. Parce que
il y a un gros moment. Il se fait mordre par Fenrir, tout ça.
Il se fait mordre par Greyback dans le sixième livre, à la fin. Mais finalement, ils l'ont juste casté pour le 7. Mais il l'a eu. Bravo.
Ben, c'est mieux que Stan Rockat, je pense. Là.
Ben oui.
Parce que on voit Stan Rockat dans les livres. Là. C'est lui qui se taule un peu à rire pendant qu'il se fait pourchasser. Mais
ouais, c'est vrai.
Dans le film, on
n'a aucune mention de... On a aussi Bill Nighy. Nighy?
Moi, j'avais de la misère avec son nom.
Qui fait Scream Jour, donc le premier visage qu'on voit dans le film. These are dark times.
Ah ouais, puis c'était un gros plan, là.
Oui. Je me rappelle, là, au cinéma, j'étais genre... Eh.
Ah, je pense que tout le monde... moi, tout au cinéma, je me rappelle qu'il y a du monde qui était comme un peu... pas en fou rire, là, mais...
Tu t'attends pas à ça.
Sacré look, là. Mais oui, ça commence... Il l'a dit. Ils ont voulu faire un discours à la Winston Churchill, un peu, là.
Rassurer les foules.
Mentir et rassurer les foules.
Ouais. Puis on a Rhys Ifans qui joue Xenophilius Lovegood, mm-hmm. et qui est l'acteur qui fait le coloc de Hugh Grant dans Notting Hill, en passant. Ceux qui connaissent bien Notting Hill, j'étais genre, hein?
Hugh Grant, j'aurais bien vu en...
En Scream Jour?
Non, je l'aurais vu en... Oui,
en Xenophilius?
Non, non, dans le 2, hey, j'ai un blanc.
En Lockhart?
En Lockhart.
Oui, oui, oui. Ah, ça tellement. Oh, ça aurait été fou, ça. Puis tu vois comme Bill Nighy, Bill Nighy, c'est le même, je vais le dire, là, qui fait Scream Jour, lui, je veux dire, il se faisait gosser par son entourage. Comme, c'est quand tu vas jouer dans Harry Potter, là, tu vas être le seul Britannique. Ben, Hugh Grant, finalement. C'est ouais. lui le seul acteur anglais qui n'a pas fait Harry Potter.
C'est ça. Mais ben, il n'est pas fin, Hugh Grant, fait que c'est correct.
Ouais, il n'est pas fin. Hein. Il fait le Oompa Loompa là, dans le dernier film, Willy Wonka, qui vient de sortir. Ouais. Après le mariage, on a le transplanage dans Piccadilly Circus. Je sais pas pourquoi je l'ai dit de même.
Mais... C'est bien dit, Piccadilly Circus.
Piccadilly Circus, downtown Londres. Puis c'est la première fois vraiment qu'un film, ben pas la première fois, mais comme la première fois en 30 ans qu'un film a réussi vraiment à booker, disons, cette partie-là de Londres qui est bondée de personnes tout le temps pour tourner une scène. Fait qu'il y avait vraiment comme 300 figurants, là.
Ça faisait 30 ans que ça l'avait pas été filmé, là.
Exact. C'est fou.
Mais tu sais, je comprends, là, t'as le dos d'Harry Potter qui fait comme « j'aimerais ça tourner ici ».
Ben,
tu dis oui.
Oui, c'est ça.
On a de l'argent.
Exact.
Fait que c'est une suggestion à faire ça, là, parce que là, tu tournes de nuit, puis comme ils l'ont expliqué dans le livre, tu sais, Daniel puis Rupert sont full habillés, fait que aux acteurs de nuit, on met des vestes en dessous pour qu'ils restent chauds, puis qu'ils restent... Mais Hermione est en petite robe rouge, pauvre elle. Ah, quelqu'un qui flush à la toilette.
Je sais pas, il y a un petit son, hein?
Je pense que c'est comme le chauffage, je sais pas quoi.
Non, première fois que j'entends ce bruit.
Mais c'est...
Puis il faisait froid, ceci dit.
Il faisait froid, puis Hermione, c'est la seule en petite robe rouge, là.
Oh, elle avait frette.
Ouais. Mais Rupert, il dit, ça s'équilibre, parce que moi, j'ai été dans la tank, dans le 4, là, en dessous de l'eau, j'ai été plus longtemps en dessous de l'eau.
Ah non, je pense qu'il parlait du 7.2.
Ouais, 7.2, ben, parce que... Harry aussi, il est dans le lac, dans l'eau, mais il va dans le lac.
Ben, dans la chambre des secrets, les deux sont mouillés.
Quand il tombe du dragon, il est trempé aussi. Tout le monde est trempé.
Je comprenais pas le commentaire, plus, mais bref. Écoute.
Beaucoup de compétition en 7e, là. On en parlait avec la course, là, mais
j'étais comme, calmez-vous. Bon, bref, on est rendu à parler des scènes de Polynectar, comme on disait que le Polynectar est très présent dans le film. Donc, quand ils font les sept potards, quand le trio prend du polynectar pour aller chercher leur crux au ministère, puis plus tard, quand Hermione se transforme en Bellatrix. Donc, comment ils ont fait pour toutes ces scènes-là? C'est vraiment l'acteur... je ne sais pas comment l'expliquer.
Ben, l'acteur va jouer la scène devant le nouvel acteur qui va le remplacer, en fait, devant la personne qui joue. Là.
Si on prend l'exemple du ministère, les trois personnes... qui sont des employés du ministère, des nouveaux acteurs qui
Ron
sont
Korn, tout ça.
Fait que là, t'as Harry, ben t'as Daniel, Emma puis Rupert qui vont jouer la scène vraiment comme ils l'auraient joué sans Polynectar, disons, là, si dans l'histoire ils prenaient pas de Polynectar, puis t'as l'acteur qui les observe, c'est ça, pour savoir exactement les intonations, les mouvements, comme tu disais, là, les petites mimiques qu'ils vont utiliser pour jouer cette scène-là, qu'ils vont faire. Donc ensuite, ils peuvent vraiment comme bien jouer la scène.
C'était super.
En imitant.
C'était bien réussi.
Ouais, j'aime ça savoir ça.
Puis ils disent, tu sais, que dans le fond, le trio a vraiment comme
dirigé
les acteurs qui devaient jouer leur personne pour leur dire « Ah, oh, moi, je ferais ça plus comme ça » ou « tu sais, moi, je marche, mettons, de cette manière-là. » Fait que là, pour les aider dans leur jeu. Puis après ça, ils ont été mic'és aussi, là, tu sais, pour faire la voix.
Ouais, ils sont allés faire du doublage après ça.
C'est ça. Tu sais, parce que là, ils gardent leur voix quand même.
Ouais,
là.
C'est vrai.
Ouais, ça, c'est un sacré travail aussi. Mais ouais. Écoute, moi, la scène où le double de Harry, en fait, quand il marche, là, tu le vois, là, les épaules de même, puis il marche, puis il est tellement bon, là, mm-hmm. Cet acteur-là, bravo, parce qu'il a bien réussi. Je ris, là. Tu vois qu'il n'est pas confortable dans son corps, là, ce qui est normal, là, parce que c'est pas ton corps, puis comme tu réapprennes à marcher avec un autre corps, là, ça paraît, puis ça marche, puis c'est bien réussi.
C'est vrai. Mais c'est beaucoup de travail de petits détails.
Ouais.
Tu sais, parce que c'est pas quelque chose de précis. Des fois, c'est juste une chose, mais que tu vas faire comme, OK, ça, c'est Harry, tu sais.
Ouais. Fait que c'était ça pour le Polynectar, à moins que vous ayez autre chose à dire.
Ben, on va avoir par rapport à Bella Biggs,
dans le 7.2, on peut.
Mais on voit qu'ils ont coupé des scènes de Polynectar quand même, parce que...
Peux-tu me rafraîchir la mémoire?
Tu sais, Harry, il est transformé en cousin Weasley dans la tente au mariage. On ne le reconnaît pas.
C'est vrai.
On voit aussi quand il va voir la tombe de ses parents, il est transformé en une couple de vieillards avec Hermione. T'sais, c'est normal qu'il n'ait pas mis de même parce que c'est une scène super émotive où il doit aller voir ses parents pour la première fois. Ça aurait été poche qu'on ne mette pas Daniel Radcliffe. Là, puis
il dit dans le film, hein, je ne veux pas revenir ici.
Exactement,
étant quelqu'un
ils l'ont
d'autre.
Justifié. Ouais. Alors que dans le film, dans le livre, il n'y a pas le choix, il faut qu'il se transforme.
T'sais. Parce qu'il est recherché, indésirable numéro un.
Exact, fait qu'il utilise beaucoup, beaucoup de. Voilà.
Mon chandail.
Quibbler!
On est rendu à parler de la scène de danse entre Harry et Hermione.
Hey, ça,
là, on a quand même sauté beaucoup. Là, comme je disais, il n'y a pas tant de détails sur vraiment le making-of, mais à un moment donné, ils sont rendus à être dans une tente. Ben, ça parle un peu de la tente, là, comme on reprend le même principe que dans le 4, là, une petite tente qui, à l'intérieur, c'est une grosse tente.
Fait que à l'intérieur, évidemment, c'est tourné en studio, puis la tente extérieure, ben, c'est tourné de ce que j'ai pu voir, dans une vraie forêt. Dans les images, on peut le voir, là, ça a l'air d'être vraiment une vraie forêt. Là. Fait que, il rentre, puis après ça, ben, 3 mois plus tard, il tourne l'intérieur en studio. Là.
Puis, bref, la scène de danse entre Harry et Hermione. Moi, je veux savoir si vous vous rappelez de la première fois que vous l'avez vue, si vous vous rappelez de ce que vous en avez pensé.
Oui.
Moi, je me souviens aussi.
OK. Vas-y, Kevin.
J'étais mitigé. Je pense que j'étais plus « what the fuck ». OK. Puis ça m'a pris bien des années avant de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire puis pourquoi ils l'ont fait. Puis j'aime juste pas la toune, en fait. Là. C'est déjà l'important, ça m'aide pas. Non, je sais, j'aime pas la toune. Puis je trouve que ça nous a tellement débarqué du monde d'Harry Potter, cette scène-là, au départ, quand je l'ai vue avec la toune, justement, qui est très moldue, qui est... Là, j'étais genre... Il dansait, puis c'était un peu maladroit, puis... Mais après ça, maintenant, quand je le regarde, ça va. Je l'aime, la scène. Mais ça m'a pris du temps. Au départ, j'étais pas pour cette scène-là.
Élie?
Moi, je suis complètement l'inverse. Je trouvais tellement, moi, que ça l'amenait comme un lâcher-prise. Ça fait des années qu'ils ont des épreuves par-dessus épreuves, puis ça finit plus. Comme, on comprend qu'Hermione, tu sais, est dans une période où est-ce qu'elle est vraiment triste. Ron vient de partir. Je pense que Harry cherchait une façon de la réconforter, tu sais. Puis il s'est dit, je vais danser avec elle, tu sais. Puis d'ailleurs, dans le livre, une chose qui m'a dérangée, c'est que Yates disait, tu sais, qu'il y avait des temps, fallait sentir la tension sexuelle. Je m'excuse, là, je suis allée revoir la scène avant qu'on s'en vienne ici, là. Il y a zéro.
Il voulait enlever la tension sexuelle, en fait, ce qu'il voulait l'enlever.
Il dit toute que tension. Dans cette scène-là, quand tu la regardes, ce que tu dois sentir, c'est qu'il y a une tension émotive entre eux,
oui.
Du fait que là, Ron est parti puis ils sont peut-être pas capables de s'en parler, mais que tu dois aussi sentir la tension sexuelle entre deux adolescents. Puis j'étais comme, de quoi tu parles?
Exact, parce que moi, j'ai
c'est comme des frères et des sœurs.
Il n'y a pas de sexe dans Harry Potter.
Non, genre, mais c'est plus la façon, tu sais, comme plus. La façon qu'ils dansent, là, c'est zéro,
ben oui,
tu sais, comme c'est danser, justement, comme tu dis, frère et sœur, puis tu sais, après ça, ils se font comme un câlin, puis ils dansent un peu collés, mais plus un câlin de « je te réconforte, je t'aime vraiment beaucoup comme personne », mais tu sais, pas amoureusement.
Mais il n'y a pas comme Emma Watson aussi qui dit, on dit, à la fin de la danse, ils se regardent dans les yeux.
Ouais.
comme si quelque chose pourrait arriver à ce moment-là si un des deux faisait le move de s'embrasser, puis que là, Hermione prend la décision de se retirer parce qu'elle est comme fidèle à Ron. On dit, avez-vous ouais, compris ça, ouais, ça
exactement.
Un peu? Emma Watson quand a dit ça, puis arrête, je suis comme, pourquoi tu dis ça?
Tout est arrangé pour que la musique arrête, ben là, c'est ça, justement, Hermione est comme, OK, c'était ça, je redeviens triste.
Mon opinion par rapport à cette scène-là, moi, quand je l'ai vue, j'étais pas contente parce que ça se passe pas dans le livre. Puis j'étais. Moi, à chaque fois que j'allais voir un film d'Harry Potter, je pensais juste aux gens dans la salle qui avaient pas lu les livres.
Ouais.
Puis je pensais beaucoup à comment eux, ils interprétaient peut-être les choses qui se passaient, les ajouts qui étaient faits au film, que moi, en ayant lu le livre, je savais que ça n'a pas rapport, donc ça. Ouais. Fait que là, je pensais juste à ça. J'étais comme non. Là, ça donne l'impression qu'il y a peut-être de quoi entre eux. Surtout après la vision que Ron a eue. Ron qui part parce qu'il pense qu'il y a de quoi entre eux. Là, c'est comme si on vient confirmer que peut-être, parce que justement, ouais. Là, le petit moment d'hésitation à la fin quand il arrête de danser. J'étais genre, voyons donc, c'est quoi ça? C'était quoi la nécessité? Parce que après, oui, j'ai pu comprendre l'intention première de ça va pas, Ron est parti dans son pour oublier pendant un instant, genre la guerre, puis tout ça, ça, puis je le comprends. Mais c'était juste le fait. Qu'on dirait ça venait juste comme mettre le doute dans. Ah, il y a peut-être de quoi qui se passe finalement pour les gens qui n'ont pas lu les livres. Mais c'est pour ça que j'aimais pas ça.
Mais ils disent plus tard, quand Ron revient, Harry dit, tu sais, c'est comme une sœur pour moi. Là,
ouais.
Quand il voit la vision de Voldemort.
Ah oui, c'est Harry, ça, Voldemort, c'est après la vision.
Qui
ouais.
s'embrasse là, tout nu. Mm-hmm. Tu sais, ça aussi, c'était.
Ouais, c'est l'affaire la plus sexuelle dans les films, son
oui.
s'entend.
Oh, oui, vraiment. Sont là, tout nus. C'était comme. Puis dans les livres, ils sont vraiment
mais
tout nus.
Mais sont-ils vraiment tout nus?
Dans les livres, ils sont tout nus.
Oui, ça, oui.
Dans le film, ils sont tout nus, mais la peur
couleur,
a fait que
ouais, ouais. ça ne paraît pas
rien,
vraiment.
Mais c'est correct, là, ça aurait été wrong qu'on les voit tout nus.
Oui.
Mais, puis tu sais, il dit, là, c'est comme une sœur pour moi, ça aurait pu juste être ça, puis ça aurait été correct,
ouais.
à mon sens.
Mais tu sais, ce que tu dis, Fred, par rapport aux auditeurs, mettons, qui n'avaient pas lu les livres, moi, ça a été mon cas, parce que j'ai vu tous les films avant de lire les livres.
Oui.
Et moi, un passage qui m'avait mis le doute que peut-être Hermione et Harry pourraient devenir quelque chose, c'était plus dans le 4.
Ah, dans le 4?
Quand, tu sais, mettons, là, dans la tente, là, le gros câlin, là, avant qu'il commence le tournoi, tu sais, j'étais comme, oh, tu sais, en même temps, des ados dans ces âges-là, tu sais, je me rappelle, nous, on était très collés, là, tu sais. J'étais tout le temps en train de faire des câlins à mes amis, tout ça. Fait que je me suis dit, ouais, peut-être pas. Mais je me rappelle que quand je l'écoutais, je me suis dit, ah! Oh. Tu sais, j'avais comme moins vu le côté Hermione-Ron arriver.
Ouais, ben ouais, mais tu sais, dans le 4, c'est là quand même que c'est clair là, qu'il va se passer de quoi entre Hermione et Ron. Mais oui, après, dans le 6, là, ça aussi, ça me gosse. Dans le 6, Dumbledore qui est comme, vous et Miss Granger, puis Harry Potter. Harry dit... Ben non, il se passe rien entre moi et Hermione. Puis là, Dumbledore, il fait comme, je voulais juste... J'étais curieux, désolé, je m'excuse de t'avoir demandé ça, mais ça se passe pas dans le livre, ça.
Non.
Mais c'est comme pour venir clarifier, encore une fois, à l'auditeur que, ben non, il se passe rien.
Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est comme Dumbledore, c'est, I notice, ben mon Dieu, ça fait depuis
la
première année qu'ils sont
ensemble.
Tu passes
beaucoup de temps avec Miss Granger.
Allô?
Ben, c'est mon ami.
Ça fait, ouais, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Mais ouais, ben c'est ça.
En tout cas.
Mais tu sais, on les voit se coller aussi quand... C'est dans le 6 ou dans le 5?
Quand Hermione a pleuré, les petits oiseaux.
Ah, Pierre, les petits oiseaux, là, elle se colle beaucoup avec Harry.
Oui, mais à ce moment-là, je trouve que c'est là qu'on comprend
qu'elle
est comme jalouse de la vente.
Oui, puis parce qu'elle dit, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois Ginny avec Dean?
C'est ça.
Fait qu'ils peuvent relate les deux ensemble de là.
Mais le bout dans l'attente, c'est plus ça. Après, je comprends que c'est plus Ron, là, mais mettons, avant, la première fois que j'ai vu, je me rappelle, m'être dit, ah! Finalement, tu sais, peut-être que...
Ben, c'est ça qui me gosse!
Il fallait pas!
Ben, c'est ça que les gens se disent, mais faut pas que ce soit ça que les gens se disent, petite affaire.
Lisez les livres avant.
Même si bien des gens auraient préféré que ce soit Harry et Hermione qui sortent ensemble.
Ben oui!
Ah, pas moi!
Ben, c'est ça aussi, c'est avec tout comme le gros débat qu'il y a. Là, tu viens comme en donner à ceux qui veulent Harry et Hermione ensemble en mettant cette
Mais auriez-vous voulu ça, vous?
Non. Harry et Hermione ensemble, non.
Moi non plus.
Mais tu sais, je suis pas très en faveur non plus de Ron et Hermione ensemble. J'aurais voulu, en fait, qu'il n'y ait pas de...
Ils restent juste couple. Tous très amis, là.
Même Harry et Ginny, moi, je voulais juste pas de couple. Il n'y aurait pas dû avoir de couple.
Ah, moi, j'aurais aimé ça, Harry et Ron. Harry et Ron. Oh, shit!
Ben, écoute
hein.
Pourquoi pas?
C'est pas J.K. Rowling qui aurait écrit ça.
Non.
Mais, c'est... Non, mais Harry et Hermione, j'aurais aimé ça.
Ouais. Ah, ouais?
Plus qu'Harry et Ron. Voyons.
Plus qu'Harry et Ron.
Plus qu'Hermione et Ron.
Plus qu'Hermione et Ron. Oui, je pense que j'aurais... Ils fit tous les deux quand même.
Oui, je suis d'accord qu'ils fit un peu plus. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de beau entre Hermione et Ron. Même si c'est comme... C'est quand même un amour weird, là, parce que, tu sais, on s'entend qu'Hermione est full intelligente, tu sais, comme Ron, il est un peu gaffeur, tu sais. Je sais pas trop comment décrire ça, mais...
Hermione, pas. Là, elle aurait fité soit avec un jumeau, tu sais, pour comme...
Un bad boy, genre?
Ou Malfoy.
Malfoy.
Ah oui.
Dans The Disappearance of Draco Malfoy.
Mm.
La fanfiction que Kevin nous recommande fortement. The Disappearances of Draco Malfoy.
Ça,
qui se passe, c'est justement aller. L'histoire du 7, mais Malfoy, c'est comme s'il était là avec eux.
On commence à la fin du 6, en fait, quand Malfoy joue Dumbledore, puis il choke. Puis on suit ça, puis toute l'histoire du 7e se passe, mais vraiment modifiée. Puis après avoir lu ça, j'ai fait, mais écoute, Hermione puis Malfoy, ouais. Ça se pourrait peut-être dans des circonstances comme ça, mais oubliez ça, ça arrivera pas.
Non, mais c'est vrai que ça aurait été un couple, tu sais, comme ça aurait choqué, je pense, au début, mais après ça, ça aurait fait du sens.
Tu sais, dans un monde où que, c'est parce que si mettons là, J.K. Rowling, puis là après on va clore le sujet des couples, de qui va mieux avec Hermione, mais si J.K. Rowling elle avait décidé là. Hermione et Malfoy vont finir ensemble, elle aurait dû l'intégrer plus.
Ah ouais,
intégrer un build-up autour de ça, Malfoy aurait été plus présent, la romance aurait été plus présente. Fait que, tu sais, ça marchait pas. Il faut que ce soit des couples qui vivent des choses ensemble juste dans l'histoire principale, exact. comme Ron et Hermione. Tu sais, fait que, voilà.
Exact.
Alors, tout ça pour dire que là, dans le film, bon, ils dansent, Ron revient, la vision, blablabla. Et finalement, ils se font pogner par des rafleurs dans la forêt et ils courent.
Et quelle course, hein?
C'est accéléré, dans cette scène-là. Il court très vite,
non,
là, comme dans Twilight, on dirait. Là.
Non, ouais, mais non. Ça a l'air accéléré à cause des mouvements de caméra. C'est bien réussi.
Okay,
Ceci dit, là, moi, je encore là, j'ai des scénaristes. Je suis comme des fois, pourquoi tu penses pas à ça? Dans le livre, là, ils transplanent. Ils sont dans la tente. Puis Harry dit Voldemort. Puis paf, les rafleurs sont là. Ils pointent leurs baguettes. Il n'y a plus de secret.
Parce qu'il dit le mot Voldemort, puis là, instantanément, ça, ils se font pogner.
Ça arrive. Dans le film, ils sont en milieu de la forêt, ils viennent d'apparaître. Ils arrivent de chez Xenophilus Losgood.
Que lui a dit Voldemort.
Exactement. Et là, les rafleurs sont là. Pourquoi ils ne font pas juste se reprendre par la main, puis foutre le camp? Pourquoi qu'ils courent? Ils se séparent, puis ils courent. Alors que tu peux juste transplaner. C'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi qu'ils leur font pas? Pourquoi t'es fait courir? C'est pas logique dans l'histoire qu'ils se mettent juste à courir.
C'est la première fois qu'ils s'enfuient en courant, genre la seule fois.
C'est comme, il fait juste transplaner.
Je comprendrais, mettons, si, exemple, il était en plein milieu d'un centre-ville, puis qu'il y a full monde, puis que là, ils doivent protéger le secret de la magie. Mais,
tu protèges pas le secret de la magie dans ce temps-là, là, tu fais juste t'en aller.
C'est vrai.
Mourir ou protéger le secret.
T'as pas raison.
Et nous, il est rendu là, il n'y a plus de secret. Fait que, tu sais,
à cause de Hagrid avec sa moto.
Je trouvais ça bizarre, mais sinon, après ça, oui.
Ouais.
Là, il court. Et les acteurs ont comme une...
Une compétition s'est installée entre eux. Ils ont couru pendant des jours. Ça a pris des jours à tourner ça. Je ne pas. Ils courent dans la forêt, là.
Ah, mais c'est parce que, tu cours dans une forêt. C'est pas comme compliqué à faire. Ouais. Parce que tu as vu les plans de caméra, là. Il explique qu'il y a une moto qui suit. Il y a une caméra dans les airs. C'est gros à s'étoper. Puis il faut que tu cours, c'est dangereux. T'es dans
le bois. Il y a des racines, des roches.
Puis t'as des plans serrés, tout ça. Fait que si je comprends que ça a été long, mais ce qui est le fun à l'air, c'est qu'il y a vraiment eu une compétition, savoir qui courait le plus vite.
Puis la The production dit que c'est Emma Watson.
Emma Watson. Ça nous a surpris, non.
Non.
Je comprends que c'est pas Rupert qui courait le plus vite, là. Mais à un moment donné, ils se sont fait chicaner par le réalisateur. Le réalisateur a comme dit, là, on peut s'arrêter de faire des compétitions de cours? Si je veux dire, on court pour le film, là, on court pas pour une compétition. Là. Comme, OK, mettez-moi en première position, puis faites juste courir pour le film. Il n'y a pas de gagnant, là. Revenez-en. J'ai trouvé ça bien drôle.
C'est vrai.
Fait qu'ils courent, puis ils se font pogner parce qu'ils n'ont pas transplané. Bravo.
Mais c'est vrai que, tu vois, j'avais jamais pensé à ça, mais ça fait pas du tout de sens.
Non, moi non plus, j'y avais pas pensé. En tout cas. Puis bon, après ça, Manoir des Malfoy, Mort de Dobby, on en a déjà parlé, et boum, fin du 7.1.
Faut mentionner la prise de caméra là, qui dit, parce que ça, j'ai jamais remarqué ça, faudrait aller revoir la scène, mais quand Bellatrix torture Hermione, ça a l'air qu'on voit la petite mèche de cheveux qu'on a
ici. Ah, t'avais jamais remarqué?
Non.
Ouais. Ah. Ça a été bien justifié, ça a été bien fait, c'est parfait, parce qu'en effet, oui, après ça, elle prend le cheveu puis elle sert de ça pour se transformer, mais il fallait qu'on le montre.
T'sais. Faut que tu comprennes si c'est arrivé quand.
Et j'aurais aimé mieux aussi dans le manoir des Malfoy qu'on comprenne que Harry, il prenait la baguette de Malfoy. C'était un moment crucial dans toute l'histoire. C'est là qu'il a le dessus sur Malfoy puis qu'il devient possesseur de la baguette de Sureau. Fait que je trouve qu'on l'a
Parce que Malfoy tient plusieurs baguettes dans ses mains, dont la sienne, mais celle d'Harry, Ron et Hermione.
Il va juste faire comme...
Il va juste poigner le mouton. Puis le Malfoy, prends-les toutes. Puis il y a celle de Malfoy, mais c'est comme pas clair.
C'est pas clair. Puis à la fin, ben, il l'explique, mais...
Ah non, parce que la baguette d'Harry est cassée. Elle s'est cassée un peu avant, déjà.
La baguette d'Harry est cassée.
À ce moment-là. Gringotts, dans le 1, qui est la dernière fois qu'on a vu Gringotts, la seule fois, je vous rappelle que ça avait été tourné dans, l'ambassade de l'Australie, à Londres. Mais là, vu que Gringotts va se faire détruire quand le dragon sort par le plancher, là, c'était comme on va construire notre propre Gringotts, puis c'est genre identique, honnêtement. Je me disais qu'il était retourné à l'ambassade de l'Australie. Fait que
l'ambassade n'était pas d'accord pour les destructions.
Ben, c'est ça. Donc, ils ont construit un Gringotts pour pouvoir le détruire. Il n'y avait pas vraiment d'autres notes par rapport à ça, là, la partie de Gringotts, là, les gobelins. Là, que t'sais, c'est long faire les gobelins parce que les gobelins ils ont toutes des faces différentes, je veux dire.
Ouais, tu construis. Puis ce qui est bien, c'est qu'il explique, c'est vraiment nice.
Oui.
C'est qu'ils vont construire avec du silicone qui est quasiment comme de la peau là, à cette heure maintenant, c'est comme ça. Puis chaque cheveu est mis un par un dans la prothèse. Puis il y en a une trentaine là, de gobelins. Là, dans le, c'est l'enfer. Ça, là, puis...
Incroyable.
C'est du travail.
Au début aussi, Yates n'était pas très d'accord pour le silicone parce qu'il avait peur que ça ait l'air fake, justement.
Ouais,
mais à cause de la chaleur de la peau, ça s'est vraiment modelé au gobelins.
Donc là, mes notes sont un peu dans le désordre là, de ce qui se passe dans le film, parce que c'est un petit peu dans le désordre aussi dans le livre, là, donc j'ai pas tout remis en ordre. Mais bref, dans le 7.2. Concernant le baiser de Ron et Hermione, et que les deux, ça leur tentait pas.
Ben, je comprends.
Mais ils savent, là, eux, ça fait des années qu'ils savent que ça va arriver.
Mais pas même vraiment, avant que le 7 French les deux, là, Hermione, puis qu'elle French les deux.
Oui, dans la vision.
C'est vrai,
là,
pareil, parce qu'ils sont tellement amis... Puis là, c'est comme, va falloir qu'on se French.
Puis que ça ait l'air amoureux.
Puis faisons ça efficace pour pas avoir à faire justement 10 steaks.
Mais ça va prendre 10 steaks. Là.
C'est sûr.
Puis ça a pris du temps au début. Puis ça, c'est pas écrit dans le livre, là, mais on le sait que dans un documentaire que j'ai vu, il s'étoffe.
Pour Emma P. Rupert?
Oui, il rit beaucoup. Là. Il part à rire, puis il s'étoffe. Puis je comprends. Là, je veux dire, moi, je ne me verrais pas franchir ma meilleure amie. Là.
Ben non.
Je suis mal à l'aise.
Là. Ben oui, c'est comprenable. Puis ça devait être la même chose pour Emma et Daniel. Mais bref.
Je pense que c'est plus facile, mettons, de franchir un étranger complètement. Mettons, s'ils s'étaient frenchés dans le premier film, ils se connaissaient pas beaucoup encore. Ben, tu sais, ils se connaissaient parce que c'est assez long de tourner un film. Mais mettons, là, après autant d'années à être amis autant que ça, puis là, il faut qu'on se french. C'est comme, je trouve que c'est plus...
Moi, j'aurais aimé qu'ils le fassent comme dans le livre.
Ben oui.
Parce que j'ai trouvé ça poche, la manière qu'elle a été amenée dans le film. Parce que dans le film... Ils détruisent leur crux, ils se font mouiller par l'eau qui est dans la chambre des secrets, puis là, ils se regardent, ils se french. Alors que dans le film...
Dans le livre,
Hermione, là, c'est elle qui saute sur Ron, parce que Ron est comme, « Hey, il faut sauver les elfes, là, ils sont dans la cuisine. » Puis Hermione est comme, « T'as pensé aux elfes? » Puis
ils ont écrit la scène dans la chambre des secrets... Est pas écrite dans le livre. Ils vont là, dans la chambre des secrets, ils vont chercher le pic de basilic.
Ouais,
là,
mais c'est pas dans
le pic, là, whatever, c'est là, là-dedans.
Ils font juste l'expliquer. Là,
c'est après ça, ils reviennent. OK, cool, on a les trucs de basilic, let's go. Puis là, c'est là, Ron. dit ça. C'est là qu'il s'embrasse devant Harry. Puis Harry est comme, allô, c'est pas le temps.
C'est comme. Puis vous, juste.
Tu sais, c'est devant Harry, tu sais.
Ouais, c'est ça.
C'est drôle, ça aussi.
Oh, ouais, c'est parfait. Mais tu sais, je trouve qu'il y avait une bonne raison pour Hermione de sauter dans les bras de Ron.
Mais ça n'a pas rapport, en effet, dans le film, que c'est quoi, là, ils se font arroser, puis là, ils ont envie de se sauter dessus, comme s'il y avait de quoi dans l'eau.
Ben, ils ont vécu quelque chose d'intense. Oui, oui, oui,
c'est comme.
Qui est fine, mais.
Ouais.
Ben non, je suis 100% avec toi. Mais.
Tant qu'à faire de French.
Je me rappelle, ça aussi, quand je l'ai vu, j'étais genre. The hell.
Moi, j'ai été surpris d'ailleurs qu'il rentre dans la chambre des secrets. J'ai fait. OK.
Non, ben, excuse. Ben, ça se passe dans le livre, là, mais Ron, ça aussi, ça me gosse dans le livre et dans le film, Ron
pas,
qui réussit à ouvrir.
T'as pas remarqué qu'Harry, il parle dans son...
Dans son sommeil,
ben non,
capable de parler fourche-langue. Dans le livre, il dit « J'imaginais des serpents sur moi, puis j'étais capable de parler fourche-langue. » Comme... Juste ça aussi, l'excuse est pas bonne.
Non, c'est vrai. Hein?
Non.
Ben, c'est parce qu'à Mané... Non, mais à Mané, Harry, il dit devant Ron, là, genre « Ouvre-toi » quand il veut ouvrir le médaillon.
Il savait un peu quoi dire.
Souvenu des paroles, mais en même temps, c'est un peu far-fetched, là, cette affaire-là.
Ouais. La bataille de Poudlard. Ça a été vraiment pensé longtemps à l'avance parce que là, il faut détruire Poudlard. Il faut que Poudlard, à travers ça, demeure reconnaissable. Les certains endroits clés qui vont être détruits, la grande salle, la cour extérieure, bref, les scènes où il va y avoir des combats, puis tout ça. Mais c'est, encore une fois, de détruire ces parties-là. Il y a beaucoup de réflexion et de préparation qui doit être faite par rapport à ça. C'est pas juste de
dans
mettre
l'ordre,
des
comment
piles
tu tournes
de roches.
Comment tu tournes ça, construit, déconstruit. Il a fallu qu'ils fassent ça. Construire, reconstruire, déconstruire. C'est illogique de faire ça. Mais dans ce qu'il y avait, dans les indisponibilités de comédiens, ils ont pas le choix de faire ça.
Mm-hmm. Mais ils ont
là,
commencé...
Je veux dire, les indisponibilités de comédiens, là, c'est tellement un enjeu. Là, chiant.
Pour vrai?
Dans la vie. D'habitude, là, ils n'en ont pas parce que tu réserves des comédiens, là, puis t'es payé. Même quand ils tournent pas, t'es payé pour pas qu'il y ait ailleurs. Au Québec, on n'a pas l'argent pour faire ça. Fait que moi, les comédiens, quand ils tournent pas, ils sont vont tourner d'autres affaires. Puis des fois, je peux pas avoir télécomédien parce que... Fait que là, on refait l'horaire en fonction de certaines indisponibilités qui sont vraiment chiantes. S'il vous plaît, l'UDA, des fois.
Fait que bref, ils ont commencé par les scènes...
De Poudlard brisé.
De Poudlard brisé.
Ouais.
Puis... Attends. Les débris.
Ouais.
Comme il y a des acteurs qui tombent dessus, des figurants qui tombent dessus, c'était fait comme mou. T'sais, c'était pas des vraies roches. Ben évidemment.
Ça, j'aurais dû. Je connais quelqu'un qui en a des affaires comme ça, des roches, des fausses roches. J'aurais dû en amener, j'ai pas pensé. Mais,
t'as-tu déjà touché? C'est
oui,
comme
oui,
vraiment.
On a déjà utilisé ça.
Comme un coussin, c'est quoi, genre?
On tournait une scène. Ouais, on tournait une scène, on devait lancer des pierres sur une voiture. À des Mohawks pour la Grisoka, en fait. Puis, on devait donner ça aux figurants. Puis, évidemment, on n'allait pas lancer des vraies roches. Là. Fait que c'était toutes des fausses roches. C'était mou, là. C'était un peu spongieux. Fait que, mais ça avait l'air super vrai. Tu peux te faire lancer ça, puis tu ne ressentais rien. Là.
Mm.
Quand même le fun.
Fait que, bref, il commence par ces scènes-là. Puis, à ce moment-là, dans l'histoire, Fred Weasley est mort. Tu sais, quand ils sont dans la cour extérieure, vraiment, ils ont commencé, ouais, mettons, ça. Par ces scènes-là. Fait que là, t'as Fred Weasley qui est mort, encore une fois, dans l'histoire, je me répète. Et donc, Oliver Phelps, qui joue George, pour la première fois, de jouer une scène sans son frère. Tu sais, c'était bizarre.
Ouais.
Fait que, mais...
Mais ça, avez-vous trouvé ça clair, cette mort-là?
La mort de Fred,
ouais.
Dans le film?
Ouais.
Ben oui, là, il est couché à terre, il est mort, puis tout le monde braille.
Bon, on le voit pas tant que ça, premièrement, là, dans le film. Là, comme, on le voit.
Toi, tu trouves pas clair parce que, OK. Puis ils disent pas Fred, genre, vraiment.
Mais ils disent rien. On le voit railler sur un corps, mais il n'y a pas de gros plans sur lui mort, puis on ne le voit pas mourir non plus.
Mm-hmm.
Alors qu'il y a des gens qui disent oui, on le voit mourir là, quand il est sur
ah ouais,
la
quand
tour,
il est genre ralenti. Là.
Puis, mais tu sais, oui. Il se fait juste enlever sa baguette, là, puis il.
Oui, sa baguette
là-bas. Alors ouais. Moi, j'ai trouvé c'était manqué, c'était pas clair, puis c'était tellement important, ça aurait dû être mieux fait. Je trouve que la mort n'a pas été claire, on l'a mal vu. J'étais un peu déçu de ça, tu sais.
Te rappelles-tu, toi, quand t'as vu le film, si t'avais compris que Fred était mort ou...
J'avais compris, oui, ouais. Qu'il était mort, mais après avoir lu le livre récemment...
T'as mieux compris les circonstances autour
oui,
de sa mort.
Oui, c'est ça. Je trouve qu'effectivement, la scène, elle était un peu botchée, là.
Ouais. Ben, c'est une mort très importante, la mort de Fred.
Oui.
Puis dans le livre, pas que c'est un beau moment, là, mais tu sais, dans le sens que ça aurait pu être fait, là, c'est très simple.
Mais tu sais, dans le livre aussi, là, Ron, il est sur le corps, puis ils doivent se sauver, tu sais, il doit laisser le corps de Fred là. C'est un moment, je trouve, qui est.
Il va cacher le corps, là, parce qu'il va pas le laisser là.
C'est ça, qui aurait dû être dans le film parce que ça démontre tellement le. La partie déchirante de faire comme « Hey, mon frère, il est là, mort, par terre. »
Mais on doit continuer, là.
Mais il faut que je continue, là. Faut que je le laisse là, là. Tu sais, c'est... Ouais. Moi, je trouve que ça aurait dû être mieux. Ouais.
C'est tellement un personnage que tout le monde aimait aussi.
Ah oui.
Les frères Weasley, les duos. Puis tu casses un duo, tu casses quelque chose de...
Tu casses un duo de... Puis tu sais, des jumeaux, en plus, là. Ouais. Tu sais, c'est encore pire, on dirait.
Fait que, comme je disais, on est dans le désordre un peu. La scène, si on est plus au début de la bataille, avant tout ça se passe. Son nom, c'est Scabier, le rafleur avec le eyeliner.
Ouais.
Il est hot.
Le eyeliner.
Les agité, cheveux longs, la couette, là, whatever. Quand il court avec genre 1000 personnes derrière lui, il y a vraiment ça, 1000 figurants derrière lui. Ouais. C'est pas CGI, mais tu sais, tu penserais que oui, ben comme je pensais avant de lire ça.
Ouais.
C'est fou.
Puis il a couru, puis ça a été long, tourner cette scène-là, mais oui, lui, il pensait que ça allait être derrière un écran vert, puis il allait courir tout seul en criant comme un épais. Mais non, il y a 1000 personnes derrière de lui. C'est super dangereux. Là. S'il y en a un qui bêche, puis qui...
comment ils ont fait ça, mon Dieu?
C'est ça. Placez-vous là, puis suivez-le.
Courez!
T'es un lead, là.
La mort de Rogue, qui se passe dans le film, dans le boathouse, comme on dit ça en français.
Le hangar à bateau. Là.
Merci beaucoup. Pas dans la cabane hurlante, comme dans le livre. Puis, c'est la première fois qu'on voit cet endroit-là dans les films, la seule fois, qui a été bâti pour ce film-là spécifiquement. Puis, Stuart Craig, qui est le gars des décors, l'a fait vraiment avec des murs en vitre. Là. Ce qui fait que, puis j'avais jamais remarqué, tu sais, pendant que ça se passe dans le boathouse, avec Voldemort qui est là avec Lucius, puis après avec Rogue, la bataille se passe en dehors de ça. Fait que t'as le reflet des flammes, le reflet peut-être même du background noise très subtil de la bataille qui se passe. Fait que bref, ce qui fait que la scène est un peu plus... Ben, ils disent que ça rend ça un peu magnifique puis romantique, la scène de mort de Rogue, dans le sens que t'as toutes ces lueurs-là des flammes sur les fenêtres. Puis que Alan Rickman lui-même a dit à Stuart Craig, « Merci pour le set, ça m'a aidé. » Merci pour ça, tu sais, l'ambiance qui vient avec le fait d'être là.
C'était beau, c'était une très belle, plus que la cabane hurlante, je suis d'accord avec ça, je trouve ça bien.
Ben, c'était pour sauver du temps aussi dans l'histoire, dans le film, là, de gens, ils ont juste à se déplacer jusque-là, au lieu de prendre le tunnel, d'aller dans la cabane hurlante,
c'est
ce qui se passe dans le livre.
C'est très réussi, la mort de Rogue. Écoute, au niveau du son, là, parce qu'on le voit se faire attaquer par Nagini. Après ça, tout ce qu'on entend, c'est les coups de morsure.
Derrière la vitre, à l'extérieur.
Écoute, j'ai mal à chaque fois. Ouais. J'ai comme, oh mon Dieu, il se fait maganer solide. Rogue, qui meurt.
Il n'y avait aucune note sur les souvenirs de Rogue dans le livre?
Non, je sais.
C'est dommage, parce que ça aurait été le fun d'avoir comme...
Mais c'est la clé de tout, là.
Ouais.
Ils ont fait du gros CGI là, sur Rogue, là, dans les souvenirs de Rogue. Tu sais, quand ils parlent à Dumbledore, puis c'est comme si c'était 20 ans plus tôt. Là, ils ont vraiment voulu le rajeunir. Là. Il y a l'air d'une personne animée. Là.
Ouais, c'est un peu manqué. Mais on n'était pas rendu là encore dans le rajeunissement.
Non, c'est ça.
Mais je trouve ça le fun, par exemple, là, juste pour revenir sur le hangar à bateau, je trouve ça le fun, justement, tu sais, que Rogue ait dit « Hey, merci pour le set » puis tout, parce que c'est vrai qu'une ambiance comme ça, ça te met plus dans un mood de faire ton jeu d'acteur, puis de vivre ton émotion puis tout ça, versus, un green screen, il aurait pu faire aussi, mais je trouve que ça y a comme... C'était comme une façon, je trouve, de le remercier peut-être aussi pour toutes ces... Tu sais, comme, d'y faire de quoi de beau.
Il fallait que tu lui fasses une belle mort, là, puis il méritait ça. J'aurais aimé mieux que ce soit plus comme dans le livre, ça se passe. Parce que Rogue, dans le livre, on le voit dire « S'il te plaît, maître, envoie-moi chercher Potter. Je veux aller le chercher. Je veux le trouver. Je vais te le ramener. » Puis il insiste « Envoie-moi le chercher. » Puis on sait c'est pourquoi il veut aller le chercher, pour lui dire là, « Voici, je suis avec toi. Je vais t'aider. Voici ce qu'il faut que tu fasses. »
T'es un horcrux.
By the way, faut que tu meurs. Mais il tète Voldemort. Il est comme « S'il te plaît, maître. » Tu le vois quand même assez vulnérable. Tu le vois un peu comme paniqué, genre « Envoie-moi chercher Harry. Je vais y aller. » Tu sais. Puis il sait qu'il va mourir, le Rogue. Puis il est comme, fuck, man, qu'est-ce que je fasse?
Tant mieux pour lui que Harry est juste l'autre bord du mur. Puis
quelle chance!
Il arrive tout de suite, là. Puis là, il donne les souvenirs, tu sais. Non, mais ça, c'est vrai que, ouais.
Ça a été rajouté dans le film aussi, « You have your mother's eyes
». Ouais, ça, il dit pas dans le livre. Que ça m'a gossé. Ah. moi, j'ai pas aimé ça.
Je suis très d'accord.
J'aime tellement ça éternuer la gang. Ouh. Mais il n'y en aura pas d'autres.
Moi, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord.
Moi aussi.
Qui a dit ça.
Non!
Je trouve ça violent, la mort de Rock dans le livre. Puis c'est juste comme il peint, puis comme look at me. Puis.
Ouais.
J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé qu'il y avait une petite rédemption. J'ai trouvé ça mieux, en fait.
Mais moi aussi, ça, moi. J'aime mieux ça. Parce que je trouve que ça donne le. Tu sais, c'est comme si à ce moment-là, juste avec cette phrase-là, Harry comprend.
Ah oh, oui.
Tout ce qu'il y a à comprendre. Sans même voir les souvenirs. Tu sais, c'est comme... Il doit se rendre compte, OK, cet homme-là, il a aimé ma mère toutes ces années-là, et encore à ce jour, avant de mourir, là. Tu sais?
Mais il le regarde dans les yeux, c'est tellement là, intense. Là,
ah
c'est
oui,
genre...
moi, j'adore ça aussi.
Il meurt, puis la dernière affaire qu'il veut voir, c'est Lily, puis il le regarde dans les yeux, puis ce qu'il n'aura jamais eu avec Harry depuis le début, là, puis il ose dire, genre... Il ose se laisser emporter par ses émotions, puis il se délivre à Harry en disant « Écoute, t'as les yeux de ta mère, là, puis je vais mourir. » J'ai trouvé ça bien.
Par rapport à ça, dans les films, c'est une phrase qui revient beaucoup plus que dans les livres. Vous avez les yeux de votre mère, vous avez les yeux de votre mère, vous avez les yeux de votre mère pendant le trône.
Ouais.
Ça n'arrête pas, là.
Ben,
mais dans les livres, moins. Sérieux, fait que, tu sais, dans les livres, que Rogue, s'il avait dit ça, ben, ça aurait pas eu rapport, je pense. Fait que, mais en même temps, oui, OK, vu que c'est un thing dans les films, là, ils l'ont mis là, fait que c'est correct, là, comme tu dis. Puis en plus, bon, on comprend mieux. Mais je me rappelle, là, quand j'ai vu ça la première fois, j'étais comme, pourquoi il dit ça, là? Il est juste censé dire, regarde-moi. Tu sais. Fait que, bref, c'est correct.
Ben, ça donnait à l'acteur une façon de jouer aussi qui était le fun. Ouais. Je trouvais ça bien pour ça.
Vous avez les yeux de votre mère. Quand je l'ai fait dire à Daniel Picard, j'étais genre, super. Je peux pas croire que j'ai vu ça. Là, il y avait des petites notes sur comment les acteurs se sont sentis dans leur dernière scène. Evanna Lynch, elle, les premières scènes qu'elle avait tournées, c'était justement dans la salle sur demande dans le 5. La dernière scène qu'elle a tournée, c'était dans la salle sur demande quand ils sont en train de camper. T'sais, parce que c'est tourné, c'est ça, là, dans le désordre. Là, fait que ça a donné, t'sais, première, dernière fois, salle sur demande. Fait qu'elle a trouvé ça le fun, full circle, dans un sens. Neville, qui explique t'sais, l'évolution du personnage, le dénouement que Neville connaît, a été inspirant pour beaucoup de gens. Il a reçu beaucoup de courriers de fans, de personnes qui se faisaient intimider. Parce que, tu sais, Neville, il se fait intimider dans ses premières années à Poudlard. Il n'y a pas de courage.
Même par sa gang aussi, un
même
peu.
Par
là.
Même par les Griffons d'or, oui. Puis, tu sais, il finit par sortir sa coquille, gagner du courage, affronter les méchants. Fait que tout ça, c'est inspirant pour plusieurs personnes, plusieurs fans.
C'est un des personnages, je pense, qui a la plus grosse évolution, là, tu sais, quand même. Là, il passe de vraiment zéro en magie à participer à la bataille de Poudlard.
Puis, il détruit un Horcrux, c'est ça.
C'est ça.
C'est fou.
Il était pas là, on était dans marde.
Juste avant qu'on se lance dans tout le volet Voldemort-Harry, je voulais juste parler des escaliers. Tu sais, les gros escaliers qu'on voit pas de même dans les autres films.
Je sais.
T'as la grosse descente d'escalier là, qui prend tout l'espace.
C'est apparu de même, comme ça.
Tu sais, sûrement parce que c'était juste mieux pour les scènes. Là, une grande...
On dirait 1 kilomètre d'escalier.
Super large. T'es genre, c'est où ça dans le château? Ça ressemble pas à dans les autres films, là.
Non.
C'est vrai.
Fait que ça m'a toujours dérangé. Ça me dérange encore. Puis ils en ont pas parlé dans le livre. J'assume, et c'est sûr que c'était juste, encore une fois, c'est ça, une question pour les plans, puis pour l'action qui se déroule, tu veux pas des escaliers qui bougent, puis là, les cordes autour.
En même temps, ça a été malade, là.
Il y avait rien de ça.
Ben oui, parce que combien de fois qu'il en parle, des escaliers qui bougent, là, tu sais, dans les débuts de films, là?
En fait, les escaliers bougent pas dans les livres. Saviez-vous ça?
Ça, j'ai pas jamais remarqué ça, là.
Il est pas sûr, hein? Je vais juste te le confirmer. Do stairs Hogwarts move in a book...
Non, non, il bouge.
Ah, ouais. Là, je suis plus sûre, là, moi.
Ah, ça me gosse, là.
Bon. Je vais traduire, mais c'est en anglais. Dans les 5 premiers films, les escaliers sont montrés comme toujours en mouvement. Quelque chose qui n'est jamais mentionné dans les romans. Quand les escaliers sont à nouveau vus dans Harry Potter et les Reliques de la Mort 7.2, ça a une apparence différente avec du marbre et une grandeur plus importante et les escaliers ne bougent plus. C'est ce qui est écrit. Puis ça dit vraiment qu'ils ne bougent pas dans les livres.
Et ça me gâche. Moi, je vais aller lire ça. Là.
On va recommencer notre lecture.
Ben, je sais que dans le 1, quand il se ramasse devant Touffu, c'est pas à cause que l'escalier a bougé. Là.
Non, non.
Juste qu'il se sauve puis il se ramasse là puis l'escalier n'a pas bougé. Ça, je suis d'accord. Mais OK, d'accord. Ça se peut. Mm. Ça se peut. C'est fou hein, ce que les films peuvent faire.
Mm.
Mais moi, tu vois, j'étais sûre que ça bougeait.
Mais oui, moi aussi. Je suis déçue de moi-même.
Ouais. Ben, ça, c'est quand même très bel ajout dans les films.
Bravo.
Voldemort Harry. Là, je parle du moment vraiment quand ils reviennent de la forêt, qu'il est dans les bras d'Hagrid, qu'il revient-ish à la ville, puis que là, ça part. T'sais. Un genre de 5 minutes de Voldemort et Harry qui se lancent des sorts puis qui se battent. C'est voulu que ce soit vraiment une grosse bataille dans le film. Dans le livre, non. T'sais, s'ils ont un, plus un long dialogue dans le livre.
Ils ont un long dialogue, mais...
C'est interminable quand même, là.
Il se bataille pas, là. C'est juste que Voldemort, il se bataille avec tout le monde, sauf Harry. Là. Harry, il est caché là, tout le long. Là.
Ouais.
Il est en dessous de sa couverture de sa, voyons, là,
ouais,
sa cape d'invisibilité. Puis il se dévoile à la toute fin. Quand il tient en joue Voldemort, puis là, il se parle. Sinon, Voldemort, il le cherche, puis comme genre... C'est tout.
Ouais. Puis c'est là que je voulais en venir au début de l'épisode, quand j'ai dit, il y a des choses que là, j'accepte plus parce que j'ai eu des explications. Moi, là, vous dire le moment qui me frustre le plus, top 3, mettons, dans tous les films, c'est quand Harry pogne Voldemort puis dit « Allez, Tom, finissons ça comme on a commencé ensemble. » Puis il jette dans le vide, puis t'es comme... Moi, j'étais genre « The fuck? » Je comprenais pas. Ça me frustre à chaque fois. Genre, ça n'a pas rapport. Puis là, t'sais, là le genre de... leur face devient une face, puis ils finissent par rouler sur le sol 2 secondes après. Mais David Yates a expliqué que... Puis là, j'ai aimé ça. C'est que Harry... en sautant dans le vide avec Voldemort, montre qu'il n'a pas peur de mourir. Parce que, tu sais, il ne sait pas exactement ce qui va se passer en sautant dans le vide.
Non.
Il est comme, go, on meurt ensemble. Puis Voldemort, c'est l'affaire dont il a le plus peur, mourir.
Oui.
Fait que j'aime ça maintenant. Ben, je l'aime un peu plus. Mm-hmm. Je comprends un peu plus l'intention derrière le moment. Même si c'est... Pas que c'est out of character, mais c'est tellement différent dans le livre que tu vois ça, t'es genre, mais voyons donc, là.
Il y a des choses un peu cringe, là, dans cette bataille-là, là, quand il se met à se frapper avec coups de poing et à coups de pied, je suis comme... Tu sais, Voldemort, si tu veux vraiment le tuer, force-toi et arrête les coups de pied et les coups de poing, puis tu sais,
tire-les.
Quand ils se poursuivent un peu, là, dans l'école, puis dans la tour de l'horloge.
Ouais, exactement. Puis quand que Voldemort, il pogne avec sa robe, là, puis il l'attache, là, c'est comme toute une perte de temps, Mais c'est pas mal ça. Mais sinon, moi aussi, ça me gossait au départ. Puis, maintenant, je me suis même aimé ça, puis j'ai fait, ben oui. Puis, le fait qu'ils se mélangent, c'est comme on revient au départ, puis là, ce n'est qu'un seul être, puis c'est ça la prophétie, puis je comprends
mieux. Il y a une symbolique là, là-dedans, là, c'est ça. Donc, voilà. Je l'accepte mieux.
Est-ce que tu acceptes maintenant comment il est mort?
C'est ça. C'est là que je m'en vais. Check ici.
Ouais.
Tu l'as vu?
Ah ouais.
Tu l'as noté?
Je savais depuis le début qu'ils ont fait 2 styles de mort.
Donc, tout le monde, parce que là, je pointe dans le livre, comme t'as vu ça. Ce qu'on a dans le livre, page to screen, c'est une photo de Daniel Radcliffe et Ralph Fiennes Voldemort qui est couché par terre, puis il est écrit, la légende de la photo, c'est vraiment « Harry stands over the fallen body of Voldemort ». Donc, Harry se tient debout à côté du corps fini, là, whatever, le corps mort de Voldemort. C'est comme ça dans le livre. Il meurt, Avada, puis il tombe. Corps reste là. Et vous le savez évidemment que dans la version finale du 7.2, ben, il meurt.
Désintégré.
Avec ça. des petites cendres, là, comme si c'était un petit papier journal là, qui brûle. Là.
Ben, comme Crowell. Là.
Ben oui, semblable.
Puis c'est plus de la cendre que de la roche qui s'effrite.
Crowell, c'était pas un Avada, c'était plus comme c'est ça, une genre de salle brûlée. Mais là, Voldemort, c'est comme un Avada. Même chose que Bellatrix dans Grande Salle qui se fait lancer un Avada. Normalement, dans le livre, elle fait juste mourir de même. Là. Puis là, elle explose là, dans le film, t'es jamais. Mais ça, c'est comme pour montrer qu'ils sont vraiment morts.
Oui, mais tu sais, t'es supposé avoir compris, le rendu au 7e film, là, que Avada, c'est pour mourir, là. Tu sais, je veux dire, t'as-tu vraiment besoin qu'on te montre des affaires extraordinaires? Tu sais, c'est juste, tu meurs, merci, bonsoir.
Fait que là, toi, tu dis qu'ils ont tourné les deux.
Ouais. Ouais. Ils ont tourné les deux, puis je pense que j'ai lu ça, là, ben des années, je sais pas si c'est vrai, là, mais j'ai cru comprendre que pendant que ça sortait, il y a eu toute l'histoire avec. Dans Saddam Hussein ou une affaire de même qu'on voyait qui était mort à ce moment-là en même temps, puis que c'était très graphique, puis ils ont voulu éviter ça. Mais il faudrait que je relise là-dessus, c'est pas clair.
Mais tu me dis ça, puis en même temps, on voit Tongs, on voit Lupin, on voit Fred.
Je sais.
Allongé et mort. Mais
c'était des gentils, eux autres, alors que lui, c'était un méchant. Ok, je comprends. Hussein, c'était un méchant.
Je comprends. Okay.
Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Ça fait longtemps que j'ai lu ça, puis je veux pas m'avancer là-dessus. Mais écoute, ça, c'est ma plus grande déception
du film.
C'est ça. Puis ils ont voulu se justifier en disant oui, mais c'était pas un être humain, puis tellement il était rendu. Ouais, non, justement, la mort, c'est justement ça. Le monde, sont tout seuls. Personne qui voit ça.
C'est comme pourquoi Bellatrix et Voldemort meurent de cette manière-là, alors que personne d'autre meurt de même dans aucun des films, mis à part, bon, Quirrell, mais on l'a dit, c'est différent, c'est pas Avada. Tu sais, hein?
Ben, c'est que rendu là, les sortilèges impardonnables sont mal expliqués. Molly a tué Bellatrix. Elle fait quoi? Un sortilège ratatinement, puis après ça, elle fait Bombarda, puis elle explose. Alors, ça, c'est correct? T'as le droit de faire ces sorts-là sur quelqu'un?
Ouais, c'est ça.
Je me rappelle pas dans le film. Je me rappelle pas dans le livre si elle fait Avada.
Elle fait pas Avada. Il y a personne qui fait Avada à part les méchants, tu sais. Fait que.
Je me rappelle pas dans ma lecture, mais.
Fait que qu'est-ce qu'elle a fait de Marley?
Ben, je pense que c'est genre Avada, mais il n'est pas écrit que c'est vraiment Avada.
Mais bref, Voldemort aurait dû mourir comme dans le film, comme dans le livre.
Mm-hmm. Elle fait pas Avada. OK, j'ai la confirmation.
Ouais, c'est ça.
Elle fait un sort très puissant qui finit par frapper Bellatrix dans le cœur, qui la tue instantanément. Fait que ça ressemble à ça, finalement, dans le film, mais juste qu'elle éclate.
Ouais.
Puis dans le livre, elle tombe à terre. Bref, fait que on revient à... C'est ça, la mort de Voldemort qui n'a pas de sens.
C'est raté.
Oui.
C'est manqué. Il aurait dû, son corps, être par terre. Puis dans le livre, il explique bien, ils prennent son corps, ils mettent à part des autres.
Oui.
Mm-hmm.
Puis tout le monde voit Harry tuer Voldemort. C'est un moment de fête. Genre, c'est le héros.
Ouais.
Puis c'est manqué.
Je tiens à le dire, là, mais ça, c'est avant que ça se passe, mais la scène Rogue, Harry, McGonagall dans la grande salle.
Oui.
Harry qui sort de la foule, qui confronte Rogue. McGonagall qui arrive, qui tasse Harry. Qui lance un sort à Rogue. La petite bataille. Rogue qui part par la fenêtre. Ça n'arrive pas du tout dans le livre. Ça a tout été ajouté.
Oui.
Ça se passe pas comme ça. Ça se passe dans un corridor. Harry est caché en dessous de la couverture de sa cape d'invisibilité à côté de McGonagall. Puis, elle rencontre Rogue. Rogue est comme, écoute, McGonagall, j'ai entendu dire que Harry était là. Si Harry est ici, puis tout de suite, genre, McGonagall est comme, à l'attaque. Filius aussi, Flitwick qui arrive, il est comme « Non, vous ne tuerez plus personne ici. » Puis il part en courant, là, c'est tout. Puis il part en volant, puis c'est le seul Mangemort qui réussit à faire comme Voldemort et voler. Dans la
OK, vie. Fait que ça arrive pour vrai dans le livre.
Ça arrive, il y a une confrontation, mais c'est pas comme ça. Là. Il s'en va en volant.
Mm-hmm. Bref, on revient à la fin du film. C'est aussi beaucoup de débats autour de ça, que Harry casse la baguette de Sureau. Vraiment, là, dans la dernière scène, juste avant l'épilogue, 19 ans plus tard, Harry casse la baguette de Sureau, la pitch dans le ravin.
Mm-hmm.
Ron qui est comme, ben voyons, mon vieux, c'est la plus puissante baguette au monde. Quelque chose de même. Puis ça, ben ça fâche les gens parce que dans le livre, il y a la baguette, puis il va la reporter dans la tombe de Dumbledore. Dans les deux cas, ce qu'il fait, Harry, c'est refuser le pouvoir suprême. Oui. Refuser d'avoir cette baguette-là. Puis dans le livre, il répare sa propre baguette avant d'aller la reporter. Fait qu'il y a ça aussi qui manque, qui est très important, parce que là, dans le film, t'as pas vraiment d'explication comme qu'est-ce qui va se passer s'il casse la baguette de Sureau, puis que sa baguette
est brisée. Sa
baguette légendaire est brisée. Il va aller s'en chercher une autre, I guess, mais il veut sa baguette, c'est vrai. Fait que c'est beaucoup mieux ça dans le livre. J.K. Rowling a accepté qu'il y a casse. Qui accasse puis que ce soit le même pour justement encore plus montrer que bon, bye, je la veux pas.
Non, mais ça appartenait à Dumbledore. Là. Il est allé la remettre dans. C'est comme. C'est mieux ça. Moi, la baguette cassée dans le ravin, je trouve ça épais.
Moi aussi.
J'aime pas ça.
Tu sais, tant qu'à avoir filmé Voldemort qui va chercher dans la tombe, là, pas compliqué de refaire Harry qui va la mettre dans la tombe. Refaire, ben, c'est ça.
Mais il est là, l'acteur.
Exact.
Peut-être qu'ils ont amené ça.
Ils ont tous cité Michael Gambon dans la tombe. Il reste là. On refait la scène. Harry, tu ramènes la baguette. Parfait, merci.
Et voilà.
Peut-être, par exemple, qu'ils ont fait ça pour vraiment montrer que personne n'aurait ce pouvoir-là.
Ouais. T'sais, il y a une chance de finalité comme elle n'existe plus.
C'est ça. Alors que dans la tombe de Dumbledore, si tu vas la remettre, quelqu'un, mettons, de mal intentionné peut retourner la chercher. Mm. Versus
ouais,
là...
Mais, oui, mais non.
Ben oui.
Parce qu'on comprend bien que elles oui. sont pas plus fidèles non, à la oui. personne que je vais aller
ça,
chercher.
Ça, je comprends, mais la
c'est,
personne...
Elle est fidèle à Harry. Anyway, de toute façon, elle est enterrée.
Ouais.
C'est Harry, le digne
ouais.
possesseur de la baguette.
Ouais.
Peu importe.
Ouais.
Mais ça, je comprends, puis je suis d'accord, mais parce qu'on a lu les livres. Mais la personne qui écoute ça,
ouais. puis c'est tellement
ne
pas
le
clair
pas,
dans le film, là, tout ça, là, les allégeances, puis mm-hmm. c'est expliqué rapidement.
Ouais, même dans les livres, c'est pas clair aussi, c'est difficile à comprendre.
Oui.
Faut que tu leur lises
oui.
plusieurs
oui.
fois,
oui.
puis nanana.
Oui.
Nan,
en
même,
plus, fait que tu sais.
Fait que tu sais, même pour les érudits, les gens mm-hmm. qui connaissent comme nous autres Harry Potter, beaucoup, ça devient. On se pose des questions tout le temps, tu sais. Sur ça.
On pense juste à ça tout le temps.
Je sais.
Fait que ça, c'était pas mal le tour des notes pour le making of. Petite affaire, le 3D qui a été considéré
ouais.
longtemps là, pour ces films-là, parce que c'était dans l'époque où que les films 3D étaient ouais, au
Avatar,
cinéma.
Là.
Avatar ouais, sortait, là.
Avatar venait de sortir.
Hey, c'est une bonne affaire que ça soit pas
mais,
fait.
Mais moi, j'ai essayé les films 3D, puis ah. je veux dire, ça n'existe plus, là, Yesh. Là.
Non,
ben ça, oui, ça existe.
Oui, mais ça existe, mais de
toi, tu veux dire l'ancienne moins, là. Façon, là.
Ben genre, ouais. mettons, Dune, là, Part 2, tu peux le voir en 3D, non? Tu peux le voir IMAX.
Mais c'est parce que le 3D d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le 3D de quand on était jeune. Tu sais, quand on était jeune, tu voyais vraiment, mettons, exemple, l'image comme si elle s'en venait vers toi, tandis que là, mettons, moi, j'ai vu le Avatar 2 là, en 3D, justement, puis t'es comme plus immersé dans le film que les objets qui volent sur toi.
Mais ceci dit, c'est pas quelque chose qui est le fun, le 3D, parce que, un, faut que tu portes des lunettes.
Non, non, c'est sûr.
Puis à un moment donné, le 3D va exister sans avoir besoin de technologie de lunettes, puis ça va être parfait, plus rendu là. Fine.
Ah, wow, OK.
Mais puis c'est ce que James Cameron est en train d'essayer de faire avec ses films, là. C'est justement de mieux développer la technologie 3D. Mais, tu sais, ça va prendre des écrans spéciaux pour ça.
Mais puis il faut que tu filmes avec l'intention que ce soit 3D au final, ce qu'ils n'avaient pas fait pour Harry Potter.
Pas nécessairement.
Non?
Tu peux le faire, puis ils l'ont essayé, puis ça n'a pas marché vraiment. C'est pas l'idéal.
Il y avait certaines scènes que ça aurait été bien, mais
c'est ça.
Au final,
tu peux filmer en 3D sans avoir pensé à du 3D, puis tu peux rendre ça 3D, mais c'est pas... Sinon, oui, ça te prend, pour avoir un bon rendu 3D, des caméras faites pour ça, puis deux caméras...
En tout cas, des mais c'est un peu ça qu'il dit, Yate, là, parce qu'au début, il y avait le deux tiers du film de tournée, puis il commençait à envisager le 3D, fait qu'il aurait dû faire ça post-production. Puis là, finalement, il y avait une promo qui avait été faite comme quoi ça allait sortir en 3D. Puis lui, il a tout cancellé ça parce qu'il a dit « La qualité n'est pas ce que je veux. »
Ça va gosser les
gens. On oublie ça. Puis malgré la promotion qui avait été faite, Warner Brothers, ils ont comme appuyé la
eux,
décision.
Eux, ils ont dit, on appuie peu importe l'avenue que vous prenez, là, rendu là.
Mm-hmm.
C'est une décision artistique plus qu'économique. Là,
ben, c'est parce que après ça, ça leur a gâché le résultat. Puis
ben, moi,
les
je serais
gens...
pas allé le voir en 3D.
Ben, c'est ça.
M'intéresse pas.
Ben, moi non plus.
Je vais pas avoir mal aux yeux à la fin. Là.
Et on finit sur le dernier jour de tournage, la dernière scène tournée, qui est une scène du 7.1. C'est quand le trio s'enfuit du ministère une fois que bon ils ont repris leur apparence, puis il y a Yaxley, la petite couette blanche qui leur court après.
Puis qui saute dans la cheminée.
Fait que c'était ça la dernière scène du trio ensemble plus Yaxley. Très émotif pour eux. Après ils se sont tous installés pour regarder la bande-annonce du 7.1, mais ils viennent de tourner une scène du 7.1.
Non, c'est pas la bande-annonce, c'est comme un montage qu'ils ont fait deux autres en tournage, puis peut-être des images déjà de
OK.
Mais
c'est chaque acteur mettons avec la
t'es sûr parce que j'ai compris que c'était la bande-annonce puis après le montage.
Ouais.
Non. The trailer for Deathly Hallows was shown for the very first time.
Ben même si
this
on...
was followed by a short film.
Ouais, c'est ça, le short film.
Il y avait le trailer,
mais ouais, mais
ça,
le trailer, ils peuvent le faire en masse
c'est
avec
ça,
ce qu'ils avaient tourné déjà.
C'est ça. Okay, ça, je me dis.
Il n'y avait pas besoin nécessairement de la dernière scène pour ça. Là.
Ouais.
Est-ce que dès qu'ils ont une scène, ça va tout de suite en montage?
Hey, vous dire, moi, comment j'abusais des bandes-annonces d'Harry Potter quand ça sortait. Je les regardais à chaque jour.
Moi,
je me rappelle celle du 6, c'est celle que j'ai le plus regardée.
J'attendais cette bande-annonce, là, puis je voyais le compte à rebours arriver. J'allais sur les sites d'Harry Potter quand ils changeaient à chaque année. Là. Puis je regardais les photos,
net.
Le montage. Puis c'est comme, OK, il y a des nouvelles photos de tel acteur. J'étais comme, oh my God.
Les premières photos qui étaient sorties du set pendant que c'était en tournage, c'est la scène de Dobby. Là. C'était comme dans les premières scènes qui ont tourné. Là, je capotais. Là. J'étais comme, oh my God.
J'essaie de me rappeler, c'est quoi la première photo qui ont sorti du film d'Harry Potter 1?
Ah ben
j'essaie de me rappeler, là, puis...
Je me rappelle pas, moi.
Ah, je sais plus. En tout cas.
Tout ça pour dire qu'il regarde la bande-annonce, il regarde le petit montage, et après ça, t'as David Damon qui fait un speech, puis t'as Daniel Radcliffe qui fait un speech, et je les ai traduits pour vous les lire.
Yes.
C'est un peu émotif. Émouvant. connais.
Les deux.
David Heyman. Fait que là, il prend place devant une salle pleine. Là,
t'as des acteurs. Tout le monde est venu. Là.
Merci pour toutes les fois où vous avez été loin de vos familles et pour tout ce qui a été fait pour ces films. C'est une réalisation vraiment remarquable et nous devrions tous être très fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Tout a commencé le 29 septembre 2000 et nous voici au 261e jour du dernier film. Ce fut un voyage extraordinaire pour nous tous, que ce soit pour 1, 2 ou 8 films. Cela a été un privilège pour moi, je peux vous le dire, et je pense que c'est un privilège pour nous tous de nous être connus et d'avoir grandi ensemble au cours de cette période. Ce fut un privilège de travailler avec vous. Ce fut un privilège d'apprendre à vous connaître. Je vous remercie pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour la façon dont vous avez veillé les uns sur les autres. Merci pour la façon dont vous avez travaillé ensemble et merci pour les sacrifices que vous avez tous faits et surtout, merci pour votre amitié.
Oh, c'était tellement beau.
Et là, Daniel Radcliffe, vraiment. Daniel Radcliffe. Je vais dire que j'aime cet endroit. J'en aime chaque centimètre. Cet endroit a été ma vie. Je pense que ce sera très étrange pour nous tous, car je ne sais pas en quoi consistera ma vie quotidienne sans vous. C'était merveilleux et je veux juste dire que j'ai adoré chaque foutue minute et que je vous remercie tous énormément. Genre, wow, là.
Ça devait être assez incroyable, cette journée-là de... Tu le sais que c'est ta dernière journée. Puis en tournage, dans la vie, quand on. Il y a toujours une dernière journée, puis on le sait, puis il y a une vibe différente. Là. C'est souvent, c'est des cafés, champagne, mimosa le matin. On sort l'artillerie lourde. Pendant que les comédiens se font maquiller, moi, je suis souvent avec eux autres, puis là, on jase, puis c'est festif, on met de la musique, on niaise. Puis la dernière scène, ben on est tous un peu émotifs, puis tout le monde du plateau vient. On s'assure que tous les gens à la base qui sont pas là sur le plateau d'habitude viennent sur le plateau, puis c'est émotif. Puis après, t'as tout le temps le numéro un, le rôle, qui va faire son speech à la fin, le producteur, puis qui va dire merci, puis on s'applaudit, on sort la bière.
C'est un rap pour
la série Harry Potter, ouais. J'ose même pas m'imaginer.
Oh my God. And this is a rap for Harry Potter and the Deathly Hallows. Imagine.
C'est ça. Ça devait être assez intense.
Oh, ben, écoute, on l'a fait.
And this is a wrap
on
for
a parlé
us.
De, c'est ça, it's a wrap for us.
Hey, j'imagine pas l'émotion quand même, parce que déjà là, je t'émotive. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est notre dernier.
Mais c'était tellement le fun de faire ça avec vous. Merci. Vraiment, cool. Et on va trouver d'autres façons de se rappeler.
Il y a des milliers de sujets. Là.
Mm-hmm. Vraiment.
Il y a la série qui s'en vient. Hein?
Oui.
Je me prononce pas encore. Je sais pas c'est quoi mon plan pour ça. Ben, je le sais un peu, mais je veux pas
spoil.
Ben, je pense que j'en ai déjà parlé, mais bref.
Ben oui.
Rien de confirmé. Merci Kevin, merci Elisabeth.
Merci à toi.
Ben,
de rien. C'était vraiment nice.
Oui, vraiment. On va se déplacer à l'après-show. On va réagir aux commentaires des gens sur ce qu'ils pensent du 7.1 puis 7.2. J'ai demandé ça sur Instagram. Alors, merci. Merci tout le monde.
Merci.
C'était l'avant-dernier épisode de la saison. En passant, le prochain, ça va être l'épisode que je fais devant public.
Oui.
Très bientôt. Puis qui va sortir comme un épisode normal.
J'arrive en retard, j'ai pas eu le temps d'avoir des billets.
Moi non plus, Caroline.
J'aurais dû vous en offrir, mais comme c'est tellement limité, prochaine fois, il va en avoir d'autres.
Parfait.
Bref.
Yay!
J'arrête pas de dire bref. Bref, c'est mon mot préféré. Bref.
Bref.
Bref, bye.
Bye, toi.
Bye.